Doen!
La question qu'on se pose, c'est comment tu es devenu berger?
La réponse classique, c'est parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est ça la réponse. C'est parce que j'ai passé toutes mes vacances d'enfant à proximité directe de grands transhumants qui me fascinaient et que j'accompagnais, que je devais embêter d'ailleurs assez sérieusement en étant toujours dans leurs jambes. Mais j'étais sur les Goëls quand j'étais gamin, et j'y passais les deux mois d'été ou trois mois d'été, et dès que je pouvais, je partais avec le troupeau toute la journée. Ma mère me mettait une tomate et un fromage dans le sac, et puis j'étais avec les bergers toute la journée. J'y ai appris des tas de choses, j'ai vu des tas de choses, et par osmose, je me suis imprégné de ces histoires-là.
À l'origine, tes parents étaient...
Absolument pas dans l'agriculture. Il faut remonter, comme dans toutes les bonnes familles françaises, à 3 ou 4 générations pour trouver des agriculteurs. Et j'ai passé 15 ou 16 premières années de ma vie, 9 mois d'enfer à Saint-Étienne-Loire et 3 mois de bonheur à Cabriac-Lozère. C'était vraiment ça, quoi. Et après, quand il a fallu faire un peu quelque chose, je me suis engagé dans cette voie-là. Comme ouvrier agricole d'abord, mais là ça n'a pas duré, j'ai très vite été berger. Le statut était pas tout à fait le même. Dans un troupeau laitier où j'ai appris énormément de choses. À 20 ans, quand le sujet intéresse, on est une véritable éponge. Donc j'ai appris énormément de choses parce que j'ai eu la chance d'être chez des gens qui étaient extrêmement compétents et à la pointe du progrès technique de l'époque. Et là, on est au début des années 70. Il s'est passé beaucoup de choses en élevage à ce moment-là, sur la sélection, sur l'insémination artificielle, sur les histoires de précision dans l'alimentation, etc., etc. Donc là, j'étais chez des gens hyper compétents, chez lesquels j'ai énormément appris. Après quoi, je me suis retrouvé à Rambouillet, à la Bergerie Nationale, où j'ai appris pas mal de choses, théoriques, évidemment, et intéressantes. Et sur le plan pratique, j'ai vu des choses aussi qui étaient l'inverse de ce qu'on nous avait enseigné le matin en cours. C'était aussi extrêmement formateur.
Et Rambouillet, c'était une école de berger.
Rambouillet, c'était la Bergerie Nationale, où continue à vivre en cercle extrêmement fermé, extrêmement étroit, le troupeau de Mérinos espagnol, devenu Mérinos de Rambouillet, importé par Louis XVI grâce à Daubenton, et grâce aussi au fait que Marie-Antoinette était la cousine du roi d'Espagne, qui a bien voulu laisser sortir des Mérinos pour sa cousine, donc reine de France. Et le croisement Mérinos, ce moment-là, a été une véritable aventure dans l'élevage ovin français et au-delà, avec une recherche de qualité de laine, de finesse de laine. C'était pas rien, quoi. Donc j'ai rembouillé, après rembouiller le premier été à Massevac comme berger pour le père Coudert. Et là, on a passé 12 étés ensemble avec un troupeau qui variait entre 1800 et 2000 mètres.
Donc c'était Fernand Coudert.
C'était Fernand Coudert que j'avais connu quand j'étais enfant. Alors que lui-même, à ce moment-là, était berger pour un patron qui s'appelait... Élie Turc, dit Turquette, qui était un gars qui devait être né, je sais pas quand, très exactement, à la fin du 19e, j'ai pas sa date de naissance, mais c'est un gars qui avait fait la guerre de 14. Donc que j'ai connu, moi, berger à Massevac.
Au début, Fernand n'avait pas son troupeau à lui.
Au début, Fernand était le berger d'Élie Turc. Et ça a duré de 46 à 66, une vingtaine d'années. Fernand était né en 26, et il est monté la première année en 46, l'année de ses 20 ans.
Et lui était déjà de famille berger ?
Alors, c'était une famille des Cévennes comme toutes, où il y avait quelques brebis, quelques chèvres, un peu de tout, quoi. Et quand il était gamin, son père était... comment dire ? Il regroupait l'été les béliers. Les béliers, des gens qui étaient par là autour ses voisins, qui avaient tous un ou deux béliers. Et ces béliers passaient l'été ensemble sur la Grande Borie. La Grande Borie, c'est une masse qui doit être commune de Soudorgue, au-dessus du col du Mercot. Ces histoires de brebis l'intéressaient, ces histoires de regroupement d'animaux, il en avait un peu l'habitude. Et il s'est loué comme berger, puisqu'à l'époque ça existait encore, au Vignol, où le père Pantel, lui, enfin, au mois d'août, tenait cabrat, c'est-à-dire rassemblait les chèvres du pays, parce que lui, il avait des boucs, et il rendait aux gens les chèvres pleines. Donc pendant cette fin d'été, il y avait plein de chèvres, il y avait un peu qui donnait un peu de lait, et l'affaire se réglait au moment de la mise bas des chèvres, où on payait le travail du bouc. Et si la chèvre ne mettait pas bas, c'est que le bouc n'avait pas travaillé. Voilà. Donc ça, c'était une façon absolument extraordinaire de maintenir, entretenir et diffuser la fièvre de Malte. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre partie de mon histoire. Donc Fernand, il est parti pour garder l'été à Massevac avec le père Turc. Et en septembre, quand il rentrait, il retournait au Vignol. Et ça, ça a duré toute sa vie. À un moment, il a épousé la fille du patron, comme de juste. Et l'histoire a continué comme ça. Il se trouve que j'ai été à la jonction de deux mondes. De deux mondes. Quelque part de trois. Avec une formation de par ma famille, socialement, une certaine curiosité, une certaine capacité d'analyse, des grilles de lecture sûres et établies, que je dois beaucoup à ma mère qui était médecin, qui m'a transmis des grilles d'analyse, sur un cas pathologique ou pas, sur une façon de décoder une démarche, des gestes, une physiologie de la digestion ou de la reproduction. Donc j'avais ça. Et aussi une certaine facilité pour des questionnements, pour formuler des questions. Étant extrêmement sensible au rôle de la parole dans l'échange. Et ça, je pense que je le dois à mon père, qui lui était pasteur et pour lequel la parole était quelque chose de fondamental. Et à propos du père pasteur, je me souviens qu'il expliquait à la demande de son paroissien ce que faisaient ses enfants. Mon père et ma mère ont eu trois fils. L'un dans l'enseignement, le second magistrat, explique mon père, et le troisième berger. Et le type ouvre de grands yeux et lui dit « Berger ? Ah. » Eh bien, pour autant que ces brebis soient galeuses, elles ne le seront jamais autant que les vôtres, monsieur le pasteur. Et mon père a eu du mal à retrouver parce qu'il entendait pas loc. Pertant que ça se fait de ciego, du monde se soit au poignet maïtang ou malas vostros. Voilà. Ah! Moi j'étais tout content. Et lui aussi d'ailleurs. Donc il y a ce monde-là, un monde fait de physiologie, de littérature et d'interrogations et de paroles. Et puis, le monde de ces brebis laitières, de cette sélection, de ces inséminations artificielles, de Rambouillet, d'histoire du mouton, qui ont un poids certain. Et en face, les techniques, les savoir-faire techniques. Même pas de la technique, c'est du savoir-faire, c'est de l'instinctif, c'est de l'empirique, qui date du début de l'élevage. Alors pourquoi il fait ça? Comment est-ce que ça peut marcher avec les grilles que j'avais? Je pense à un truc tout à fait basique. Quand une bête est quelque peu malade, qu'on sait pas trop ce qu'elle a, on lui serre la base de la queue très fort avec un cordon en laine. Et de deux choses l'une, soit il se crée un œdème et la bête va mieux, soit il se crée pas d'œdème et la bête est foutue. C'est à la fois une thérapeutique et un mode de diagnostic, pas de diagnostic, mais de pronostic. Bon. Comment ça se fait que ça marche ? Alors après, des explications, j'ai gratté, je suis allé voir des vétos, la plupart m'ont envoyé en pelote, d'autres ont essayé de comprendre eux aussi. Bon, on en est arrivé à se dire que c'était une agression qui mobilisait les autodéfenses de l'animal. Donc j'ai toujours eu un cordon pendu à mon sac, et je m'en suis toujours servi.
Et ça marche.
Et bien sûr que ça marche. Il y a eu des tas de trucs comme ça. Et j'avais les questions pour faire un coup d'air pour les autres, parce que j'ai croisé quand même pas mal des gens de cette génération et de cette histoire-là. Mon questionnement, il fallait bien qu'ils y répondent. Alors qu'eux-mêmes ne s'étaient jamais posé les questions. Et je suis arrivé avec tout ça à accumuler un certain bagage, quoi.
Alors ça, tu dis, ça a duré 12 ans, quand même.
J'ai fait 12 étés avec Fernand.
Comme être berger, on va dire. C'est...
Oui, oui, oui. On avait entre 1800 et 2000 à Massevac.
Et c'était déjà comme c'est aujourd'hui, une cabane comme ça?
On avait une cabane, ouais. On avait une cabane pour nous, une cabane pour les bêtes et le parc. Il venait de quitter la petite cabane qui ressemble plus à un cercueil qu'à une cabane, qui était l'abri mobile qui accompagnait le parc et le troupeau lors des nuits de fumature, que lui avait pratiqué jusqu'à la fin des années 50.
Tu peux nous dire ce que c'était, les nuits de fumature?
Il y a une histoire assez extraordinaire dans une vie de Maupassant sur l'utilisation par un couple illégitime de la cabane de berger, laquelle était en haut d'une côte. Et le mari trompé finit par s'apercevoir de l'histoire. Et alors que la dite cabane est occupée par le couple illégitime, il enlève les cales. Et la cabane s'en va. C'est dans une vie de Maupassant, c'est magnifique. Tout ça pour dire, qu'on le veuille ou non, il faut refaire l'histoire du mouton. Le rôle premier, la fonction première du troupeau, c'est, pour parler comme les agronomes, la concentration de la matière organique, la concentration de la fertilisation. Autrement dit, les moutons vont bouffer dans des endroits pauvres, maigres, escarpés, rocheux, où seuls eux peuvent trouver leur nourriture. Et ils ramènent tout ça sous forme de déjections dans la bergerie ou dans le parc pour fumer, améliorer, amender les parcelles cultivées, arables. C'est en pleine la symbiose entre la vigne et le mouton. Le viticulteur a besoin de fumier pour faire pousser sa vigne. La vigne ne pousse que dans certains endroits. Le troupeau va dans la garrigue récupérer de la matière organique qui est ensuite restituée à la vigne, dans laquelle le troupeau passe l'hiver, ou en tout cas une partie de l'année, entre la fin des vendanges et le débourrage des bourgeons. Et c'est un système qui a marché longtemps et qui est en train de se recréer sur des vignes en bio. L'été, il se passait exactement la même chose. Le troupeau transhumant venait utiliser des serres, des crêtes, des travers relativement éloignés du village, du hameau, de la ferme qui avait son élevage de bovins et ses champs. Et c'est dans ces champs que le troupeau dormait, champs où étaient cultivés du seigle, des choux, des choses comme ça. Les vaches avaient leurs prés, qui étaient parfois eux aussi fumés par les troupeaux. Et la nuit de fumature correspondait à une journée de nourriture pour les bergers, les chiens, et le paysan qui bénéficiait de la nuit de fumature avait en charge la nourriture des bergers. Le cerf appartenant à plusieurs propriétaires ou à l'indivis du village, chaque habitant du village avait un certain nombre de nuits qui lui étaient dévolues. Il y a à Massevac un endroit qui a très longtemps été cultivé en seigle et qui s'appelle 40 nuits, ce qui veut dire que un troupeau de 1200 bêtes à l'époque mettait 40 nuits à fumer cet espace. Et le parc était déplacé tous les jours pour que chaque nuit soit passée dans un endroit différent du champ pour arriver à en fumer la totalité. Sur le mont Lozère, sur des terres peut-être un peu plus riches qu'ici, il était d'usage de changer le parc entre 3 et 4 heures du matin. Sinon, le seigle poussait trop et versait, Et l'inverse du seigle, c'est pas une bonne chose pour moissonner derrière. Et doubler la pargade, ça consistait, pour arriver à tirer droit et avoir des parcs à peu près utilisables, il y avait des endroits où les bêtes passaient de nuit, et le paysan était furieux parce qu'à cet endroit-là, le seigle versait. Donc on a ce troupeau qui passe l'hiver en garrigue ou en Cévennes ou quelque part en bas, et dont le fumier est précieux, plus que précieux, c'est sa raison d'être, qui transhume sur des montagnes où le fumier est aussi sa raison d'être. Et en fait, on a des communautés paysannes sédentaires, les yeux d'en bas, les autres en haut, qui vivent par celui qui est lui mobile. C'est une image qui me plaît bien par les temps qui courent. Donc, le troupeau, dans ses déplacements, était accompagné par ses bergers. Les bergers qui longtemps ont vécu dans quelque chose qui s'appelait une atuetch, qui était une clède de bois, la même que celle qui servait à faire les parcs. Des unités de clés mobiles en bois qui faisaient 2 mètres 20 ou 2 mètres 30 de long sur 90 de haut, qu'on plantait légèrement incliné, qui était tenu par une fourche en bois, une gude. Et dans son déplacement, le troupeau était accompagné donc par le berger qui, lui, avait pour abri une clède en bois comme ça, 2 piquets, 4 traverses, sur lesquelles étaient tressés des genêts qui faisaient un peu toit. Et il s'est débrouillé pour vivre dans cet abri-là, plié dans sa cape. Après, on a fait quelques progrès, on a abandonné la tuette et on a fabriqué des caisses en bois qui avaient à peu près tout du cercueil, mais bon, dans lesquelles il dormait et qu'il tournait en fonction du vent là aussi, parce que quand l'orage claquait, c'était pas toujours évident. Surtout quand on avait en plus dans la cabane les deux agneaux qui venaient de naître de façon tout à fait inopinée. Bon. Moi je me souviens du temps où Élie Turc, dit Turquette et Fernand dormaient chacun dans leur cabane. Après, il y a eu la cabane en tôle construite par le beau-frère de Fernand. Cabane que moi j'ai occupée ensuite, qui a été rénovée, qui existe encore plus exactement sous la même forme, et à laquelle maintenant est enfin adjointe une vraie cabane en pierre, avec des aménagements à l'intérieur qui sont des aménagements tout à fait acceptables pour le travail saisonnier. Quoi.
Qui a été pour toi une lutte de nombreuses années pour obtenir ça?
Oh, ben, je sais plus. On a dû commencer à en parler en 2013, de l'éventualité de construire des cabanes, et elles vont être finies en 2017. On a mis que 4 ans, pas si mal.
Et là, ce sont des véritables maisons en pierre?
Oui. Oui, oui. Des murs en pierre et une couverture en lauze, boîte à l'intérieur de laquelle est construite toute une structure en bois. Et ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement agréable. Voilà, donc maintenant, tous les transhumants de notre secteur sont équipés de cabanes possibles. En tout cas, tous ceux qui transhument en cœur de parc national. On est arrivé à ce que l'État, sous forme de parc national, construise chez l'État, sous forme d'Office national des forêts, le tout avec des financements de la région. Je pense qu'il y a un tour de force qui mérite d'être salué, là. Voilà, voilà.
Donc on en était, tu étais avec Fernand Coudert.
Voilà, j'ai été berger là pendant 12 ans, après quoi j'ai eu l'opportunité d'essaimer avec mon troupeau, de créer une unité transhumante sur la montagne en face.
À partir de quand tu as eu des bêtes à toi?
Ah, j'ai eu des bêtes à moi tout de suite. J'ai fait l'été 75 comme berger avec Fernand, mais dès l'été 76, j'avais des bêtes à moi. Et le troupeau a grandi, cru et embelli, jusqu'à temps que je quitte Massavac. Mon dernier été à Massavac, c'est 86, donc ça fait 12 étés, c'est bien ça. 87, j'ai essaimé sur le col Salides, où mon associé à l'époque avait loué une propriété, un pâturage, où la voisine, qui était âgée à ce moment-là, qui avait une petite unité transhumante, m'a proposé de travailler ensemble. Elle m'a mis le marché en main, elle m'a dit « Tu prends le troupeau et le pâturage et tu fais le boulot, ça te va ?» J'ai dit « Ça me va ». Et donc j'ai quitté Massevac, mais de façon tout à fait amicale. On a continué à se voir, à travailler ensemble, en particulier pour le maintien et la sauvegarde de la race ovine rayole, dont Fernand Coudert a été un des derniers détenteurs historiques avant que la race reprenne un peu d'importance et d'intérêt, tout ça.
C'est une race qui était typiquement cévenole.
Absolument. Avec une base d'animaux que j'ai pas connus, mais que j'imagine très bien, et qui était quelque part intermédiaire entre ce qu'on appelle maintenant la Blanche du Massif Central et la Côte Nord des Garrigues. Il devait y avoir une population qui était comme ça, quoi. Et à partir des années 1800, 1810, la bergerie nationale créée par Louis XVI et Daubenton, et qui a été maintenue par la Révolution, encouragée par l'Empire. Le rôle de la laine dans l'équipement militaire, c'est une histoire en soi. Donc cette population des Cévennes, qui était détenue par des micro-éleveurs, dans le système de polyculture-élevage des Cévennes, où il y avait des mûriers pour le verre à soie, de la vigne pour la consommation familiale, des jardins, du seigle, des cochons, de tout. Les brebis, qui constituaient à peine la moitié de l'effectif ovin, l'autre moitié étant constituée par des moutons, autrement dit des mâles castrés, qui étaient extrêmement efficaces dans la concentration de la matière organique dont on a parlé tout à l'heure, et qui n'étaient pas très exigeants à partir du moment où ils avaient passé un an. Ils arrivaient ensuite à passer l'hiver avec des fagots provenant de la taille en verre au mois d'août des châtaigniers fruitiers, en un temps où toutes les châtaignes sont ramassées et étaient valorisées. Les moutons des Cévennes, les brebis des Cévennes, elles bouffaient pas des châtaignes à ce moment-là. Elles bouffaient la feuille de châtaignier qu'on avait taillée et dont on avait fait des fagots, puis des meules. Donc ces gens qui étaient dans l'obligation de tout profiter au maximum, ou en tout cas à l'optimum, n'ont pas hésité à mettre des mérinos sur leurs brebis. Plus au nord, pourquoi la Blanche du Massif Central a été très peu, pour pas dire pas du tout mérinisée, je ne le sais pas. Et pourquoi la Côte Nord des Garrigues l'a pas été non plus. À ce moment-là, la Côte Nord des Garrigues était à un certain moment de l'année exploitée en brebis laitières, avec la vente d'agneaux née l'automne sur Noël, ou la vente d'agneaux née en hiver sur Pâques, et la production de lait un peu ensuite. Ça n'allait pas chercher bien loin, mais ils faisaient tous un peu de lait. Est-ce pour ça qu'ils ont pas mis du mérinos dessus? C'est une éventualité, c'est une hypothèse, mais j'ai pas la réponse absolument certaine là-dessus. Toujours est-il que les cévenols, eux, ont mérinisé leurs brebis, qui sont devenues, par là même, un peu différentes des autres, beaucoup plus lainées, avec des femelles qui peuvent être cornues, qui peuvent ne pas l'être, des mâles qui l'étaient pratiquement tous à l'époque, et qui le sont tous maintenant, de par une décision du syndicat, de ne plus utiliser de mâles sans cornes, mais avec quand même, aujourd'hui, cette qualité de laine particulière qui fait que ça devient un intérêt à la fois économique et une satisfaction pour les éleveurs d'avoir une laine intéressante à tout point de vue. Bon. Donc Fernand Coudert était détenteur de ces animaux-là, avec deux ou trois autres éleveurs de La Salle sous drogue Colognac, et un peu grâce à un gars du Parc National qui était veto de formation et qui a vu un peu que ces bêtes-là, elles n'étaient pas tout à fait comme les autres, on a créé le syndicat des éleveurs de brebis rayoles en 78. Syndicat qui existe encore, et à l'époque on avait 400 bêtes, et aujourd'hui il y en a 3000, quoi. On a mis 40 ans à arriver à ça, mais on a sauvé la race, on l'a faite progresser, on l'a, je pense, quelque peu améliorée sur un plan de la conformation, on l'a pas trop abîmée en la poussant trop et en lui faisant bouffer trop de concentré. Voilà, je pense que là-dessus on n'a pas été trop mauvais, quoi.
Tu t'installes au col Salides? Ça, c'est valable pour l'été. En hiver, tu étais où alors?
Alors, dès 75, dès la fin de mon premier été à Massevac, avec Nadine, mon épouse, on s'est installé chez elle, sur la propriété de son père, une de ses petites propriétés des Cévennes, commune de Valrogue, sur la route d'Ardaillès, où il y avait pas mal de châtaigniers, pas mal de chênes verts, beaucoup de cailloux et pas beaucoup d'herbes. On y a fait notre vie. On y a élevé nos enfants. 3 mois d'été. En tant que berger, ça interdisait pas mal de choses. Ça interdisait les jardins, ça interdisait des trucs comme ça. Ça permettait quand même de rentrer 3 sous et à moi d'avoir la vie qui me convenait. Ça a dû être plus difficile pour elle, qui avait un travail à l'extérieur, qui montait me voir à la montagne. Après, quand j'ai été sur Salides, les enfants étaient tantôt avec moi, tantôt avec elle. Ce qui fait qu'à certains moments, tout le monde pensait que nous étions séparés, alors que c'était pas ça du tout. Le gros avantage de Salides, c'était que c'était à 45 minutes en voiture de la maison. Le gros inconvénient, c'est que c'était sec et pénible. Bon, on peut pas tout avoir. Et là, à Salides, j'y ai fait 29 ans. Toujours avec les mêmes éleveurs, ou presque, avec les brebis de la famille Pastre du Moulin de Bar, dont la mère était un personnage absolument merveilleux. Et c'est elle qui m'avait remis son pâturage et ses brebis, pour créer une unité viable, quoi.
Parce que lorsque tu gardes à Salides, tu gardes ton troupeau plus celui d'autres qui te les confient.
C'est le même système que à Bassevac et que partout ailleurs ici. C'est un troupeau collectif regroupant les bêtes de plusieurs éleveurs sous la responsabilité d'un seul, qui est en général lui-même éleveur. Donc c'est une histoire qu'on a pu qualifier d'entrepreneur de transhumance, qui a duré jusqu'au tout début des années 2000, en tout cas pour la plupart, et qui ont été ensuite ces entrepreneurs de transhumance, pour des raisons d'accès à des financements publics sous forme de subventions franco-européennes, ces histoires-là se sont reconverties en groupements pastoraux, donc en forme associative, qui ont permis de vraiment développer tout ça, quoi. C'est à partir de là que, pour faire court, il y a eu une maison construite à Salides, à la place de la caravane, qui a eu des financements pour nettoyer un peu les drails, pour améliorer des trucs ici ou là. Enfin bon. Donc ça a été un peu la fin des entrepreneurs individuels et le début d'une histoire plus collective, quoi.
C'est-à-dire que tu pars avec ton troupeau et au fil du chemin, pendant la transhumance...
Je ramasse les brebis de l'un et de l'autre. Et le troupeau grossit. On partait, quand j'étais à Massavac, là, on partait des vignoles, il n'y avait que celle de Fernand Couder, qui en avait à peine 200 à l'époque. Et puis on en ramassait tout le long du chemin. À Soudorgue, il y en avait plein qui arrivaient. À Soudorgue, nous attendait, pendant que les troupeaux se regroupaient, que les gens finissaient d'arriver, nous accueillait chez lui un brave homme qui avait été berger dans sa jeunesse, qui était le gendre d'Eli Turc, donc celui qui avait été le patron de Fernand Couder, André Domé. Et qui, à la suite de je ne sais plus trop quelle catastrophe, était devenu aveugle. Alors bien sûr, il savait que nous serions là ce jour-là, il avait entendu le troupeau. Avec Fernand, nous allions le voir chez lui, et on lui disait « Bonjour André », et il nous disait « Bonjour Fernand, bonjour Bernard ». Il nous installait chez lui, il nous servait le café, et il en mettait pas une goutte sur la table. Et de temps en temps, il allait à la fenêtre, il tendait un peu l'oreille, et il nous disait « Ah, il y a un tel qui arrive, et il est à tel endroit. » Et puis un moment après, il disait « Ah, là c'est un tel qui arrive, et il est à tel endroit. » Et il connaissait d'une année sur l'autre, parce qu'il les entendait que ce jour-là, le son des troupeaux de Pierre, de Paul, de Jacques et de Guillaume, et il se trompait pas. Et des fois, il disait « Ah, il a quelques cloches neuves cette année, lui. » Il avait été berger et il était aveugle. Donc, il connaissait les cloches et les bêtes, il connaissait les gens, et il avait une capacité d'analyse auditive énorme. Mais quand même, là, j'avoue que André Domé forçait le respect. Alors après, on mélangeait tout ça. La draille, col de l'Asclier, où on était... un peu avant midi, ou à 1h, ou à 2h, quand il faisait trop chaud, et on passait plus tard dans la soirée. L'après-midi, quand le troupeau redémarrait, on passait sur ce fameux pont moutonnier de l'Asclier pour aller dormir à Montpellier, où nous étions là aussi attendus par un troupeau qu'on récupérait là, le troupeau de Victor, et mes bêtes à moi, qui étaient à Bonperrier, que mon beau-père avait amené là.
Ensuite, dernier matin, réveil à Bonperrier.
Réveil à Bonperrier, ça c'est une histoire. Ça c'est l'histoire de la nuit la plus courte de l'année. Avec une nuit dehors, quel temps qu'il fasse, pour Fernand et pour moi. Les autres dormaient dans la paille et dans le foin, dans là où ils pouvaient. Et les plus délicats ou les plus sensibles revenaient couverts de puces, c'était rigolo. Et on démarrait de Bonperrier à l'instant où le soleil se levait, c'est-à-dire à 6 heures. Certaines années plus tôt même, les années très chaudes plus tôt.
Et c'est les brebis qui décident.
C'est quand même le berger qui ouvre la porte du parc.
Ah, elles sont parquées à Bonperrier.
Oui, elles sont parquées à Bonperrier. Bonperrier, ça a toujours été un lieu de... une étape de transhumance. Comme Mère de Côte, comme Colognac, sur cette draille-là. Et Bonperrier, la grande maison, qui a été une ferme un moment, mais qui a surtout été un relais de transhumants. Et pas que de transhumants, parce que toute l'année, la circulation, les communications se faisaient par là. La draille était aussi empruntée par tout le monde. Les cavaliers, les charrettes. Il n'y a qu'à voir l'usure des rochers à certains endroits. Il suffit d'un peu d'imagination pour comprendre qu'il y avait des murs et qu'il y avait une chaussée qui était à peu près carrossable, quoi. Avec des véhicules à deux roues, avec des cavaliers, avec des caravanes, de mulets, des trucs comme ça. Les communications par les fonds de vallée, c'est récent. Toutes les communications importantes dans ces veines se faisaient par les crêtes. Et Bonperrier était une étape obligée. Même s'il n'y avait pas beaucoup d'eau, même s'il fallait aller chercher l'eau loin, de toute façon, à Bonperrier, je pense que dans les 15 ou 20 ou 30 siècles qui nous ont précédés, il s'est bu beaucoup plus de vin que d'eau. C'est là que les troupeaux se rassemblaient à la montée, c'est là que les troupeaux se triaient à la descente. Et cette maison était la propriété de la famille de Nadine, la famille de ma femme, et c'est son grand-père qu'il a vendu au propriétaire actuel. Et quand mon beau-père était jeune, c'est lui qui était là les mois de juin et les mois de septembre pour faire bouffer les bergers. Et il racontait l'histoire à la descente de ce type qui était arrivé tout seul, en lui disant « qu'il fallait me parguer belle, et belle, et belle, avec mes cladous troupels. Il faut faire un parc grand, mais grand, grand !» On a mélangé deux troupeaux. Et là, ils sont arrivés avec plus de 3000 bêtes, quoi. Descendaient du Mont-Lozère, ils ont mis un temps infini à trier. À l'époque, il n'était pas question de trier au pas, il était question de les attraper une par une. Donc dans ces champs, qui étaient travaillés une année sur deux et fumés une année sur deux. En septembre, la récolte était faite et le seigle, en général, pas encore semé, donc il les faisait dormir un peu partout. En juin, le seigle était déjà grand et il n'était pas question de les faire dormir dans le seigle. Donc il les faisait dormir soit dans un pré qui était déjà fauché, soit dans ce qui serait cultivé l'année d'après. Et là aussi, troupeau arrêté, concentration de la matière organique et valorisation de la dite matière organique sous forme de seigle, etc. Donc on retombe sur ces histoires de fumature. Pas question de laisser perdre une crotte, quoi.
Il a vu passer
une mouche.
Une mouche ou des gens. Tu as ton troupeau assez rapidement, et alors, est-ce que tu achètes des cloches tout de suite?
Ha ! Les cloches ! Les cloches. Il y a toujours eu des brebis à la Molière. Quand on s'y est installé, en fait, en septembre 75, à la fin de mon premier été à Massavac, il y avait des bêtes. Il y avait toujours eu des bêtes. Mon beau-père en avait toujours gardé quelques-unes, parce qu'il aimait ça, et parce qu'il lui fallait du fumier pour ses jardins. Quand on est sur de l'arène granitique, et qu'on a des gamins à faire bouffer, il faut faire pousser des patates et des poireaux, et des salades et des haricots, et si on n'a pas de fumier, sur l'arène granitique, on fait rien pousser du tout. Si on a du fumier et un peu d'eau, on fait tout pousser. Donc il aimait les bêtes, et il avait besoin du fumier. Donc il y avait toujours eu quelques brebis. Du temps de son père, il y avait un troupeau important, que lui avait très sérieusement réduit à partir du moment où il s'était employé comme cantonnier. Cela aussi, il fallait faire bouffer les gamins. On était à un moment de l'histoire où le troupeau, même important pour les Cévennes, ne suffisait plus, où la soie se cassait la gueule, ou etc., etc. Bref, c'est toute une histoire. Donc il y avait quelques bêtes quand on s'y est installé avec Nadine. Très vite, j'en ai acheté d'autres, que j'ai mises dans des bâtiments les bâtiments anciens, les bâtiments existants, pour renforcer un peu le troupeau de 17 bêtes qu'avait mon beau-père. Et j'en ai acheté à Colognac, j'en ai acheté à Soudorgue. J'ai acheté les bêtes qui me convenaient, quoi. Pas beaucoup. Jamais acheté beaucoup de bêtes. J'ai toujours acheté des béliers, mais très très vite, j'ai gardé mes propres agnelles. Et je préférais une bête moyenne née chez moi à une bête qui paraissait jolie chez le voisin et qui, une fois achetée, était plus chez elle. J'ai très vite compris ça. Mon beau-père avait sur son troupeau quelques cloches. Il avait quelques cloches de draille en stock qu'il n'avait pas acheté lui-même parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des cloches de draille. De temps en temps, il achetait une demi-douzaine de clapettes. Et quand j'ai eu le troupeau, il a continué à acheter de temps en temps une demi-douzaine de clapettes. Ce qui m'arrangeait bien parce que ça me faisait des cloches. Mais ce qui m'ennuyait un peu parce que lui, il voulait des clapettes alors que moi, je voulais des esquillards. Voilà. Bon. Et que chaque fois que j'ai eu 3 sous, moi, j'ai acheté des esquillards et pas des clapettes. J'ai essayé de le convaincre en lui disant qu'elles s'usaient moins vite, ces cloches-là. Mais il n'était pas convaincu. Bon. C'était aussi une façon de marquer nos différences. Les cloches de draille, il en avait quelques-unes, pas beaucoup, une douzaine peut-être. Et j'ai commencé à en chercher à droite à gauche, chez des vieux qui avaient plié, chez des gens dont les héritiers savaient pas trop quoi faire de ça. J'en ai trouvé quelques-unes. J'en ai acheté quelques neuves chez François Granier à Hérépian. Et là, on doit être tout début des années 80, peut-être même fin des années 70. Plutôt fin des années 70. Il se trouve que mes parents, à l'époque, étaient à Mazamé et que Valorogue-Mazamé, ça passe par Hérépian. Donc j'en avais acheté quelques-unes, du 8 et du 9. Je les ai toujours, elles ont été bonnes, elles le sont encore. J'avais un beau-frère qui aimait ça. Il connaissait les cloches, il connaissait les bêtes. Et lui, de son côté, avait récupéré pas mal de draillaux. Il y en avait une quarantaine en tout. Que j'ai utilisé sur mes brebis pendant très longtemps. C'était ses cloches, il y avait les miennes et il y avait les siennes, mais c'était mes brebis qui dérouillaient tout ça. Jusqu'au jour où il a eu besoin d'argent, où j'ai acheté ses cloches. Voilà. Donc ils ont changé de propriétaire, ils ont changé de maison. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec quelque chose comme 80 cloches de draille, à peu près. Bon, c'est peu par rapport à certains collègues, c'est beaucoup par rapport à d'autres. Sur les 80, il y en a 70 de bonnes, et une dizaine qui sont là pour décoration, dont une qui est constituée de 4 morceaux de tôle différents. D'où elle sort, elle vaut rien, elle est sur un vieux collier, et elle joue son air de décoration. Peu de sounal, j'ai jamais trop aimé ça. Quelques-uns, parce qu'il en faut quand même quelques-uns, mais peu. Et même à l'année, j'en mettais très très peu de petits sounal. 2, pour qu'ils se répondent. Un seul, ça va pas. Jamais plus. Ça vieillit pas très bien, les sounal. Ça s'abîme, ça prend des coups. Après, ça fait des bruits et non plus des sons.
Et les colliers?
Les colliers, il y en avait quelques-uns à peu près corrects. Sur les cloches d'origine, sur celles que j'ai rachetées à mon beau-frère, les colliers allaient bien. J'en ai acheté les neufs. Pour les cloches neuves que j'avais achetées à Hérépian, un grand-père de Gange qui faisait ça très bien. Puis après, j'en ai acheté 6 ici, 6 là-bas. J'en ai changé. J'en ai quelques-uns de Gilbert Grasse. J'en ai quelques-uns de Marcel Serriès. J'en ai quelques-uns de Francis Coudert.
Quand est-ce que les Coudert qui étaient très intéressés, et puis qui ont continué jusqu'à aujourd'hui, par la tonte aux ciseaux, les décorations, les pompons, tout ça? Fernand Coudert, il l'a hérité, ça, de la tradition, ou c'est lui qui l'a mis en place?
Il y avait une tradition de cloches, plus ou moins importante chez les uns que chez les autres. Cette histoire de grandes cloches pour la Transhumance, une histoire de draillard qu'on mettait au départ, qu'on enlevait à arriver là-haut et qu'on remettait pour la descente. Je sais pas de quand ça date, mais c'est vieux. Pour moi, à l'évidence, c'est vieux. Ce qui est probablement plus vieux encore, c'est les décorations à l'ocre qu'on retrouve en Anatolie, qu'on retrouve sur les cornes des yaks du Tibet. Cette histoire de décoration à l'ocre, au bauxite, c'est probablement aussi vieux que la domestication. J'ai pas d'éléments historiques, archéologiques pour prouver ce que j'avance, mais ça me paraît être dans le droit fil. Cette histoire de tente au ciseau qui laisse beaucoup de laine me laisse, moi, perplexe. Comment, dans cette économie extrêmement frugale, où tout était valorisé au maximum, comment pouvait-on se permettre de laisser de la laine sur le dos alors qu'on avait fait les croisements qu'il fallait pour l'y mettre? Il y a là une contradiction. Et pourtant, partout dans cette zone de garrigue que je connais un peu, entre Nîmes et Montpellier, quoi, traditionnellement, la plupart des bêtes étaient tondues de cette façon-là. Même ces bêtes, ces cosnardes pelénées qui mettaient bas au mois de février, on leur laissait un peu de laine sur le dos. Alors, est-ce que c'était une protection concernant le mauvais temps? J'en suis pas sûr. Autant sur les métis des Alpes, ces tontes en Lyon où on laissait la casquette et un petit manteau aux agneaux, ça pouvait s'expliquer. Non pas se justifier, parce que techniquement c'est un peu une connerie. Mais ça pouvait s'expliquer de cette façon-là. Autant là, si ce n'est pour l'aspect, pour la montre.
Fallait montrer qu'on allait plus belle.
À tel point que, à certains moments, il y avait des transhumants qui, pour avoir les plus belles bêtes du pays, transhumaient sans les faire payer les bêtes qui étaient tondues avec une rose sur le cul. Dans des histoires de rivalité entre transhumants, mais ça existait. Donc cette histoire de tonte, je me l'explique mal. Quant à cette histoire de pompons, je me l'explique plus mal encore. On peut dire que ces pompons de laine rouge ou jaune sont la survivance d'un vieux culte solaire, puisque on démarre les troupeaux au moment du solstice, qu'on les ramène au moment de l'équinoxe. On peut broder là-dessus, ça me convient pas. Pour les raisons précédentes, que des gens qui sont dans une économie extrêmement juste, extrêmement serrée, qui comptent sou à sou, ils vont pas mettre de la laine, de la teinture, pour le plaisir de faire joli. Et d'après Alfred Fesquet, qui m'a appris beaucoup de choses aussi, les premières décorations sur les brebis, c'était les épaulettes ou les fourragères que les soldats avaient ramenées, d'une part, et d'autre part, des queues d'écureuil, par exemple, qu'ils attachaient au milieu de la rose ou qu'ils attachaient sur le rail, des trucs qui coûtaient rien et qui n'étaient pas vendables. On n'allait pas revendre les épaulettes. Quant aux queues d'écureuil, on avait bouffé l'écureuil, il restait la queue, c'était joli, elle devait servir deux fois et puis on passait à une autre. Cette histoire de pompon, qui le premier a mis un pompon sur un mouton, je le sais pas. Ça m'étonnerait que ce soit une histoire très très ancienne. Une histoire beaucoup plus ancienne, par contre, sur le mouton maître, ou les deux gros moutons qu'on garde une année de plus, une année de trop, pour avoir vraiment une belle bête à montrer dans le troupeau, et avoir un coup suffisant pour monter la clape du 10 ou du 11, parce qu'on en a tous une ou deux, maintenant ils en ont beaucoup plus, une ou deux clapes du 11, donc le mouton de 4 ans qui va avec. Chez les éleveurs catholiques, dans le rail de devant, il y avait une croix. Une petite croix de rien du tout, mais elle y était. Quant aux pompons, peut-être y en avait-il quelques-uns, un, deux, équipés de ça, les plus beaux bien sûr, avec une volonté d'attirer le regard sur le pompon et non pas sur la bête, dans le but implicite, ou en tout cas jamais dit sous cette forme-là, détourner le mauvais œil. Et ça, c'est quelque chose qui a une certaine importance.
On croyait à la sorcellerie dans les Cévennes ?
Mais on n'y croyait pas, on était dedans. On était dans ces pratiques-là.
Tu as été rapidement leur défenseur ou c'est venu au fil du temps, ça ?
Il y a eu deux aventures. La première, c'est 84. C'est... comment dire ? Par quel bout l'attraper, cette putain d'histoire ? Qui n'en finit plus. Qui finit aujourd'hui, mais qui... Il faut la faire remonter où et quand ? pasteur avant, les fièvres. La fièvre quarte, la fièvre quinte. La fièvre ondulante, puis définie sous le nom de fièvre de Malte, qui est une vieille histoire méditerranéenne liée à l'élevage, avec de temps en temps quelqu'un qui disait « Cette année, les brebis ça va, mais les doublinques, donc les bêtes de 2 ans, réussissent pas. Elles avortent, ou il en a avorté la moitié. Les chèvres, au terme de leur première gestation, de temps en temps, un avortement, bon. Et on vit avec. Il y a des cycles, donc de temps en temps, un peu plus de bêtes jeunes, mais ça passe dans la foule, on vit avec, on sait qu'on court ce risque. Et simultanément, de temps en temps, un vieux, un gamin, un type dans la force de l'âge, qui va très bien, se met soudain à trembler, à suer, et on le colle au lit, et il mouille les draps, et on le soigne comme on peut, et il en sort au bout de 2 mois extrêmement affaibli. Quand il est trop vieux, il en meurt. Quand il est trop jeune, il peut faire des histoires de boiterie, des histoires bizarres qu'on explique mal. Et on dit, il a chopé la fièvre. Quelle fièvre, on ne sait pas. Quant au gars dans la force de l'âge qui a passé 2 mois au lit, il s'en relève à peu près, il est jamais exactement le même qu'avant, mais il arrive à reprendre une vie normale. Mais chaque année, au moment où il a eu ce truc-là, il a un coup de fatigue, les fièvres. Et puis on s'est aperçu que les fièvres en question étaient dues à une bactérie, que c'était la même bactérie qui faisait avorter les brebis, qu'elle était transmissible donc par les avortons et tout ce qui s'ensuit, et le lait, et que le fromage restait contaminant pendant une quinzaine de jours. On a mis en évidence que ce Brucella mellitensis, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, pouvait continuer à rester présent pendant des années et à emmerder les gens avec des histoires d'arthrose. Il y a eu une description célèbre dans la littérature médicale d'un cas à Saint-Martial. Et Saint-Martial, ça peut pas être plus la Cévenne que ça. Fièvre de Malte, parce que les tout premiers cas ont été décrits à Malte. Et que de fièvre de Malte, on a fait un nom un peu plus savant et on a appelé ça brucellose, puisque c'est un certain Bruce qui l'a mis en évidence et qui l'a appelé ça Brucella mellitensis de Malte. Cette maladie, cette zoonose, qui est donc une maladie commune aux hommes et aux animaux, a sévi pendant des siècles dans notre bassin méditerranéen, sous forme d'endémie, un coup ici, un coup là, 2 dans un village une année, point pendant 10 ans, 3 dans le village à côté l'année, une autre année, quelque chose de diffus, de permanent. Avec quand même, à Aigues-Vives, un guérisseur qui avait le remède. Quel était ce remède, je ne le sais pas. Que mettait-il dans son lait qu'il faisait boire aux patients bouillant et horriblement sucré? Un lait épais, très blanc. Je sais que les gens qui en ont bu s'en sont retrouvés guéris. Et que ceux qui l'ont bu en période de rémission ont été un peu secoués, mais pas plus, que ceux qui l'ont bu en période de crise, en période d'affection aiguë, se sont retrouvés terriblement secoués. Mais 48 heures après, c'était fini. Alors, est-ce qu'il avait la bonne dilution de placenta de bête avortée, la bonne dilution homéopathique? Est-ce qu'il avait la plante qui fonctionne en antidote? Est-ce qu'il avait le mélange des deux? J'en sais foutre rien. Je sais qu'il était très très efficace. Il s'appelait Cellard, il habitait Aigues-Vives. Une maison sous la place, fraîche, de ces vieilles maisons, de cette Occitanie profonde avec un dallage, une table ronde, et des fleurs artificielles sur la cheminée qu'on n'allumait jamais. Les pouvoirs publics se sont saisis de cette Brucella mellitensis, et ils ont dit, ça peut plus durer. Faut faire quelque chose. Faisons quelque chose. On a mis au point un système de recherche dans le sang des animaux et des gens d'anticorps correspondant à Brucella mellitensis par une méthode d'analyse qui s'appelle le sérodiagnostic de Wright, qui mettait en évidence les anticorps, pas la Brucella active. Donc une brebis qui vient d'avorter présente un sérodiagnostic négatif. Elle balance du brucella partout, mais elle a un séro négatif. 15 jours après, elle a un séro positif. Hein. Elle s'est défendue contre et c'est fini, elle n'avortera plus. Alors, il y a eu plusieurs réactions des autorités sanitaires devant cette endémie, et j'insiste bien sur endémie. Il y a eu d'un côté une prophylaxie dite médicale, qui consistait à utiliser des vaccins, lesquels vaccins bloquaient la maladie, empêchaient les brebis d'avorter, et on pensait qu'à terme, une vaccination à peu près généralisée finirait par éradiquer la maladie. C'était compliqué, il y avait plein d'animaux partout, des tas de tout petits troupeaux. Sur les brebis, c'était à peu près satisfaisant. Sur les chèvres, ça l'était beaucoup moins, parce que après une vaccination, les animaux présentaient un sérodiagnostic positif, exactement de la même façon que après une attaque de bactéries dites sauvages. Autrement dit, on ne savait pas si la réaction, la séroagglutination positive, était due à la maladie ou était due à la vaccination. Et pour les chèvres, c'est quand même un peu ennuyeux, sachant que le truc est transmissible à l'homme. Alors on a essayé de faire des gestions différenciées des ovins et des caprins. On a essayé de faire des contrôles plus ou moins poussés. On s'est toujours heurté à des tas de problèmes parce que les animaux n'étaient pas identifiés de façon efficace et définitive. Quand on faisait des contrôles ou des vaccinations, on mettait au mieux un numéro à la peinture sur l'animal, et puis après ça devenait ce que ça devenait. Au bout de 15 jours, c'était plus lisible, enfin bon. Donc il y a eu des tas de choses bizarres qui se sont passées à ce moment-là. Au même moment où, dans les zones de présence assez générale de la bactérie dite sauvage, dans des zones où il y avait moins, beaucoup moins de cas avérés, une toute autre prophylaxie s'est mise en place, dite prophylaxie sanitaire, qui consiste, elle, à surtout ne pas vacciner les animaux, mais à faire des contrôles sérologiques systématiques et à abattre tout animal présentant une sérologie positive. Le département du Gard a opté pour la vaccination. Le département de la Lozère a opté pour la prophylaxie sanitaire, donc l'abattage systématique des animaux réagissants. Quand on a un troupeau qui transhume depuis 3000 ans entre les deux départements, comment fait-on ? Voilà, c'est intéressant. L'égalité de traitement du citoyen, la République une et indivisible, etc., etc., c'est rigolo. Ce qui est obligatoire dans le Gard est interdit en Lozère. Ah, bon. Dans un premier temps, ça a à peu près marché, pas trop. Il y a eu des abattages dans le Gard aussi, quand ils étaient trop infectés. Il y a eu des fraudes absolument terrible, de sérologie falsifiée. Il y a eu des troupeaux qui, pour continuer à monter en Lozère, n'ont pas vacciné alors que leurs voisins vaccinaient, et ils avaient droit à des dérogations spéciales de par les services vétérinaires. Il y a eu une certaine efficacité de tout ça, avec une très très nette régression de la maladie, à la fois chez les animaux et en médecine humaine. Il n'y avait plus qu'un cas de temps en temps, on ne savait pas trop d'où ça sortait, enfin bon. En appliquant systématiquement la prophylaxie sanitaire, on a rendu des troupeaux entiers complètement vierges vis-à-vis de Brucella melitensis. Le vieux système d'immunité, de présence, de contact plus ou moins virulent, plus ou moins atténué, qui faisait qu'on avait ces cycles de 5, 6, 8 ans de bêtes qui avortaient jeunes et puis qui avortaient plus, et puis tout le monde vivait avec ça. Tout ça a disparu. Il y avait des animaux qui ne savaient plus, savaient entre guillemets, qui ne savaient plus ce que c'était que Brucella melitensis. Mais on avait quand même à côté des bactéries sauvages qui étaient bien cachées chez des gens qui avaient fait abattre leurs vilaines brebis quand c'était les jolies qui étaient positives, etc., etc. Avec des vétérinaires qui se sont prêtés à ce jeu-là. On a tous en mémoire l'histoire de ce type qui, pour avoir un troupeau composé d'animaux uniquement négatifs en sérologie, a pris un agneau, l'a saigné, a rempli les tubes éprouvettes. Après quoi, le vétérinaire et l'éleveur sont allés déjeuner. Bon, paix à leurs âmes, puisqu'ils ne sont plus de ce monde. Il y a prescription, il y a plus de 30 ans. Tout le monde sait que ça s'est passé. Inversement, il y a eu des vaccinations avec un vaccin qui crée des réactions sérologiques positives à vie sur les animaux vaccinés, qui ont été faits sur des animaux indemnes pour pouvoir toucher la prime à l'abattage, alors que le type voulait se débarrasser de ses brebis. Ça existait aussi. Bon, à partir du moment où il y a possibilité de fraude pour obtenir un gain supérieur, il y a toujours des gens qui s'engouffrent dans ce genre de faille. Toujours. Bon, c'est comme ça. Donc on en est à ce moment-là où on a des animaux indemnes et où quelque part on est très fier. Et là je pense au troupeau de Massevac qui avait adopté la prophylaxie sanitaire lozérienne et qui montrait à tout le monde que ça marchait. Que entre gens sérieux et qui font des choses comme il faut, comme on leur a dit de les faire et qui sont les bons élèves, la prophylaxie sanitaire est efficace. Pendant des années, nous avons transhumé à Massevac des animaux entièrement vierges de brucellose. Tout le monde était ravi, tout ça était magnifique, et nous étions la preuve vivante de l'efficacité du système et du bien fondé du raisonnement de l'administration. Un beau matin de l'été 84, dans le parc, au mois d'août, on est le 20 août, on trouve un avorton par terre. C'était pas le premier de la saison, des avortements, quand on a un tas de brebis pleines, les avortements, c'est un grand classique, après un orage, après un stress. Il y a tout un tas de choses, de raisons qui font que, de temps en temps, il y a des avortements. On s'en préoccupait peu, ou pas. Et cet avorton-là nous a plus qu'interpellés. Je revois la scène, on est tombé, Fernand Couder et moi-même, en même temps dessus. On a vu ça. On a regardé la brebis qui était là, à côté. On s'est regardé avec Fernand. On n'a rien dit. Celui-là, il n'était pas comme ceux d'habitude. Je l'ai enlevé. Je l'ai mis à l'écart. Et puis, on n'en a plus parlé. 48 heures après, il y en a eu un autre. Le même. Enfin, le même. Qui se présentait de la même façon. Qui avait la même tête. Et la brebis n'était pas au même propriétaire. Et là, on a commencé à en parler avec le père Couder. On est le 20 août. À partir du 1er septembre, peut-être un peu après, à partir du 5 septembre, on a commencé à avoir des avortements. Et puis alors là, c'était 10 tous les jours, hein, ou 12 tous les jours. Ça, c'est simple. Cette année-là, j'avais, le 15 août, dans le parc, j'avais 120 brebis pleines, qui devaient agneler entre le 15 septembre, ou le 16 septembre, et le 20 octobre, sur un mois. À la Toussaint, donc le 1er novembre, j'avais 14 agneaux dans la bergerie. J'avais 30 ans, deux enfants, et un emprunt sur la bergerie en question. Bon. Donc on s'est retrouvés, par la grâce de la prophylaxie sanitaire et par l'application des textes et le respect de la réglementation, on s'est trouvé devant quelque chose qui était une endémie, un truc qui pétait un jour ici, un jour là, pas grand-chose, à bas bruit. On s'est retrouvé devant une épidémie explosive. Parce qu'on était sur un terrain vierge, que les brebis n'avaient aucune autodéfense. Parce que ça faisait des années, trois générations de brebis qu'elles n'avaient pas vu passer un bruxella. Il en est passé un et on a eu une explosion, mais une explosion. Le résultat de cette explosion-là, ça a été des avortements terribles, ça a été plus ou moins directement autour du troupeau 17 ou 18 personnes atteintes, malades, certaines ont été hospitalisées. Nadine, ma femme, à ce moment-là, l'a chopé deux jours après avoir repris le boulot, ce qui fait qu'elle n'a pas eu droit aux indemnités dues à une longue maladie. Ça durait quand même au moins un mois et demi, si pas deux mois, de traitement avec des antibiotiques à assommer un bœuf. La femme du médecin chez lequel j'enfermais mes brebis l'a chopé aussi. Ça a complètement désorganisé les élevages concernés. Nous étions 23 propriétaires différents dans ce troupeau de masse vaque à cette époque-là, donc il y avait encore beaucoup de tout petits troupeaux. Beaucoup d'entre eux étaient des troupeaux mixtes, à la fois bovins, caprins. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas hésité à faire de la prophylaxie sanitaire. Ils ont tous supprimé leurs chèvres ces années-là, sauf quelques-uns qui, eux, ont supprimé leurs brebis avant que les chèvres soient malades et ont conservé l'élevage caprin. Nous, à ce moment-là, on a supprimé les chèvres. On s'est trouvé devant des pouvoirs publics locaux et un conseil général qui a dit « Mais c'est tout simple, si ce troupeau est malade à ce point-là, voilà des sous, vous en achèterez des neuves, mais on va tuer celle-là, abattage total !» Là, on a dit non, pas d'abattage total. Il n'y en est pas question, si, 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 il n'y a que ça à faire, non, 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 on ne les abattra pas. Et on s'est retrouvé devant une résistance des éleveurs, d'autant plus déterminée qu'on venait de créer le syndicat des éleveurs de Robirayol et qu'il fallait absolument maintenir la race et qu'elles étaient toutes dans cette histoire-là. Qu'on avait nouvellement arrivé à Ganges une vétérinaire qui sortait de l'école vétérinaire de Lyon, où elle avait travaillé avec son patron sur un nouveau vaccin, ou plus exactement un vaccin qu'on connaissait déjà, mais qui avait été légèrement modifié, et en tout cas avec un mode d'inoculation du vaccin tout à fait nouveau, tout à fait différent de ce qui se faisait par le passé. Donc Marie-Pierre Puech, grâce à son patron, ses patrons Fontaine et Fenserbank, ont dit « Mais nous, on va faire de la vaccination et on va voir ce qui se passe ». Et on a fait de la vaccination en milieu infecté, avec le contrôle de l'école vétérinaire de Lyon, qui descendait tous les 15 jours faire des prises de sang à toutes les brebis. On s'est battu comme des lions, et on a conservé notre troupeau. Ça a été rude, d'autant plus rude que les éleveurs caprins de l'époque, nos voisins, nos copains, les gens qu'on voyait tous les jours, se sont mis à nous accuser d'être... pique des fauteurs de troubles, être des destructeurs de leur économie et mettant en danger leur existence même. Je me souviens de réunions publiques à la salle, où d'un côté la salle était pleine d'éleveurs caprins ou assimilés, et de l'autre d'éleveurs ovins ou assimilés, et entre les deux, c'était au-delà des tensions, quoi. C'était presque foutu sur la gueule. Bon. On comprend leur angoisse d'un côté, on comprend leur colère de l'autre. Alors à l'époque, quand Nadine a chopé cette saloperie, j'en ai discuté avec elle, bien sûr, et le médecin, copain médecin, on a dit « qu'est-ce qu'on fait ?» On attaque à la tétracycline et on tape dessus à grands coups d'antibio et on voit ce que ça donne. Ou on essaye le guérisseur des algues vives. Et le copain Toubib, qui est un homme intelligent, a dit « algues vives ». Mais 8 jours. Et si dans le 9e jour, la fièvre n'a pas baissé, et si les contrôles, etc., etc., sont pas en évolution favorable, on attaque la théramycine. Enfin, les tétracycles. On va avec vive, Nadine a bu son lait. 8 jours après, elle reprenait le boulot. Bon. 15 jours après, je croise le copain médecin et il me dit... Demain matin, tu prends ma femme et tu l'amènes chez Célar à Aigues-Vives, parce qu'elle l'a, ta saloperie. Je dis, bon, ben, je sais où c'est, je l'y amène. Et je l'y amenais, pareil, des contrôles et une surveillance comme le lait sur le feu. Mais 8 jours après, elle aussi, elle reprenait le boulot et c'était fini. On sait toujours pas ce qu'il y avait dans le lait de Célar. La bonne dilution de placenta de brebis avortée, la bonne plante, le bon... j'en sais rien, le bon mélange, la bonne température, ça marche, ça marchait en tout cas. Quant à nos brebis, ce vaccin inoculé, parfois oculaire, une goutte de vaccin dans l'œil, a été ensuite généralisé. Et toutes les vaccinations qui sont faites après notre histoire se sont faites avec du rêve 1 oculaire. Parce que ça permettait à l'animal de maintenir une couverture vaccinale tout en n'ayant plus d'anticorps faisant réagir la séroagglutination. Merveilleux. Donc nous sommes retrouvés avec des animaux vaccinés, au bout de 6 mois à peu près tous négativés, à peu près tous seulement, mais plus contaminants, puisque vaccinés. Donc ne correspondant pas exactement aux critères lozériens pour pouvoir transhumer, Et je nous renvoie le père Couder et moi chez la directrice des services vétérinaires de Lozère, en lui disant, ben voilà, on a vacciné, on va monter. Et elle dit, vous ne montez pas en Lozère, vous ne mettez pas un pied en Lozère, vous avez des bêtes malades. On dit, on n'a pas des bêtes malades, on a des bêtes vaccinées et sous surveillance de l'école vétérinaire de Lyon. Elle n'a rien voulu savoir. Elle a fini par nous lâcher, monter les bêtes négatives, et puis on verra. La veille de monter, ou presque, j'en avais discuté avec Fernand Couder, on en avait discuté avec un ou deux autres éleveurs. Et j'ai pris ma plume et j'ai écrit à Madame Duncan, directrice service vétérinaire de Lozère. Et je lui ai expliqué que le fait que Massevac soit en Lozère et de l'autre côté de l'Égoile dans le Gard, c'était un accident de l'histoire et que la transhumance datait d'avant les départements. J'ai donné un certain nombre d'informations comme celle-là et j'ai conclu, et je me souviens très exactement de ce que j'ai écrit, que je demandais bien évidemment la plus grande indulgence de la part de ces services dans le cas où nous serions obligés de ne pas respecter strictement la réglementation. C'était clair. Et on a monté tout le monde. Les positives, les négatives, les vaccinés, les... Tout. On avait expliqué aux voisins éleveurs bovins que il n'y avait pas de problème. Avec eux, ça allait. En cours d'été, la dame Duncan et une paire de ses sbires se pointent avec des grandes listes d'animaux, de numéros d'animaux, puisqu'entre-temps, quand même, on était arrivé à une identification individuelle par tatouage. Donc, toutes les brebis, tous les animaux présents étaient identifiés clairement, avec dans l'oreille gauche leur numéro d'élevage et dans l'oreille droite leur numéro d'ordre dans l'élevage, commençant par le millésime de l'année. Et elle avait les listes transmises par les services vétérinaires du Gard d'animaux appartenant à Pierre, Paul et Guillaume. Et sur ces listes-là, il y avait des animaux qui étaient cochés en vert et d'autres qui étaient cochés en rouge. Bien évidemment. Ils rentrent dans le parc, la première brebis qu'ils attrapent, c'était une brebis à moi. Et c'était la première sur la liste rouge. C'est inadmissible, vous avez enfreint la réglementation, vous nous aviez dit que vous transhumeriez que des animaux négatifs, elle nous a fait un numéro terrible de vertu offensée, et elle nous a collé au tribunal, poursuivi pour transhumante illicite d'animaux brucelliques. La brucellose, en tant que zoonose, est une maladie réputée légalement contagieuse, à déclaration obligatoire et à surveillance administrative extrêmement stricte. C'est pas rien. Il y a des textes dans le code rural et dans le code de la santé publique qui régissent ça. Donc elle avait tous les articles qu'il fallait pour nous poursuivre, et elle l'a fait. Bon, que faire ? Nous étions plus que 17 ou 18 éleveurs, 17 je crois, concernés. On s'est retrouvés un jour tous ensemble, on avait tous eu la visite de l'huissier qui nous avait collé une convocation au tribunal de Florac, on avait déjà eu la visite des gendarmes qui avaient pris nos dépositions, etc., etc. Non, c'était pas rien. Surtout pour des gens qui avaient rien fait d'autre que mener l'existence qu'ils menaient depuis des générations. Et tout ça, c'est bien gentil, mais enfin, il faudrait quand même essayer de trouver un avocat. J'ai trouvé un avocat, Maître François Roux. Et je lui dis, ben c'est pas le tout, mais il va falloir que tu nous défendes dans cette histoire-là. Et nous voilà, je passe les détails, devant le Madame Momy, présidente du tribunal de police de Florac, qui a écouté tout ce qu'on avait à dire, qui a ressorti la lettre que j'avais écrite à la directrice des services vétérinaires, qui a écouté longuement nos témoins. Il y avait eu une lettre des deux profs de l'école vétérinaire de Lyon. Il y avait témoignage à la barre d'Anne-Marie Brisbard, qui avait expliqué que la transhumance entre le Gard et la Lozère, c'était pas la transhumance entre le Gard et la Lozère, c'était la transhumance entre dans le même pays, de gens qui faisaient ça depuis toujours, et que... On a eu le témoignage extrêmement précis de quelqu'un qui venait de terminer une thèse de doctorat en agronomie sur l'élevage ovin sur les versants sud et nord de l'Égoile, et qui est maintenant un des grands pontes de l'INRA, Benoît de Dieu, qui avait témoigné au tribunal, qui en a eu d'autres. Enfin, c'était déjà pas mal. J'étais pratiquement le seul à prendre la parole, les copains étaient là, l'avocat était là, Quand les autres éleveurs étaient absents, l'avocat disait qu'il les représentait. On a eu droit à un réquisitoire de la part du commissaire de police qui était, bon, qui a lu les textes, quoi, et qui a demandé l'application de la loi. Mais l'application de la loi, ça pouvait être une contravention par animal transhumé et non pas par troupeau. Donc une condamnation à 100 francs, par exemple, par infraction. Quand on avait monté 50 bêtes, ça commençait à faire des sous à l'époque. Et c'est ça le risque. C'était de tomber sur un juge qui décide de l'application de la loi, c'est-à-dire vous avez monté au total 500 bêtes avec des sérologies positives, vous allez payer 500 fois l'amende la plus haute prévue au tarif. Le commissaire de police faisant office de procureur a demandé l'application de la loi. Après quoi, François Roux a plaidé, il a raconté des tas de choses sur notre travail, sur notre vie, et il a conclu en disant que on s'était pas caché, que on avait fait les choses de façon tout à fait rigoureuse finalement, et que dans cette histoire-là, nous étions conscients d'avoir enfreint la réglementation, mais que la peine, on l'avait déjà eue. Ah, bon. J'ai trouvé qu'il était assez fort dans cette histoire-là. Et Madame la Présidente Momy a conclu, elle, par une requalification de l'infraction. Requalification de l'infraction à l'audience, c'est rarissime. Elle a dit que nous n'avions pas transhumé des animaux malades, mais que nous avions omis de déclarer certains animaux que nous avions transhumés, donc omission, et que pour cela nous étions condamnés, mais dispensés de peine. Ben, j'ai trouvé qu'on s'en sortait pas mal. Dispensé de peine, ça veut dire qu'on a payé l'avocat, qui nous a pas coûté bien cher, et on a payé les frais d'huissier. Il me semble que les services vétérinaires ont pris ça, ils l'ont mis dans leur poche et ils ont pas fait appel. Hein. Le groupement de défense sanitaire des éleveurs lausériens, qui nous regardait de travers, a fait de même. Ils n'étaient pas constitués de partie civile, on a eu de la chance. Parce que là, s'il y avait une partie civile de la part des éleveurs lausériens, éleveurs bovins de l'Asminal, c'est autre langogne, ça serait peut-être passé différemment. Mais ils ont eu l'intelligence de laisser faire, et on s'en est sorti comme ça. Non, c'est quand même assez énorme, si tu veux, cette histoire de transformation d'une endémie en épidémie. Sur un plan épidémiologique, sur un plan de l'histoire médicale, sur un plan de l'étude de l'efficacité et des mérites comparés des différents modes prophylactiques, c'est une histoire qui est vachement intéressante. Et Anne-Marie Brisbard a publié là-dessus. Ouais, ça a été une sacrée aventure. Ça a été une sacrée aventure, ça n'est pas forcément tous remis. Moi, j'ai pour habitude de dire que la brucellose, quand elle tue pas, elle rend définitivement idiot. C'est un peu ça. Moi, je l'avais eu avant. Avant cet épisode-là, moi, je l'ai eu quand j'avais 15 ans. Elle m'a envoyé à l'hosto pendant un mois. Elle m'a envoyé sur une table d'opération avec un abcès au foie. Donc, je sais un peu dans ma viande ce que ça peut être comme catastrophe. J'ai vu des gens tomber dans des dépressions au long cours. J'ai vu des tas de troupeaux pliés, vendus, bradés, abattus. C'est pour ça que les réactions de ces deux frères ennemis du film islandais Bélier m'ont vraiment rappelé celles que j'avais vécues moi à ce moment-là, quoi. Des types prêts à tous les excès, à tous les délires, pour arriver à sauver leurs bêtes.
C'est peut-être l'occasion de dire que pour un éleveur, supprimer des bêtes, c'est pas rien. On entend tous les jours dire, on a tué l'élevage de canards, on a tué l'élevage de moutons, et ça y est, on est reparti à zéro, et tout va bien, et l'éleveur a de nouvelles bêtes.
Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. En tout cas, pour des animaux qui sont toujours en bâtiment, je sais pas comment ça se passe. Mais pour des animaux qui vont dehors, et qui pour la plupart sont nés là, parce qu'un éleveur digne de ce nom, il fait ses agnelles, il fait ses génisses, il a comme reproductrice des animaux nés chez lui, même s'il a comme reproducteur des mâles achetés à l'extérieur. Mais le béaba d'un élevage, en particulier dans des pays comme les nôtres, où on fait de l'extensif, où on utilise des parcours difficiles, Il faut que la bête soit née là et qu'elle ait appris le pays avec sa mère. Sinon, on fait pas du bon boulot. Dire on va les remplacer, on les remplace pas. On va pas apprendre à une bête qui arrive de même de chez le voisin où est la bonne herbe, où est la source, où est l'arbre qui fait les bonnes châtaignes et où est l'escalier pour passer d'un traversier à un autre et où est le passage entre deux rochers qui permet d'aller, etc. Il y a là quelque chose que j'appelle, je vais faire hurler, mais tant pis, une culture du troupeau, une culture des animaux. Ils savent des choses, ils savent des dates, ils savent des lieux, ils savent des moments. Et ça, si on les remplace par des animaux nés ailleurs et ayant d'autres expériences et d'autres habitudes, ça marche pas. J'ai une jument que je suis allé chercher en Suisse, elle a mis 5 ans à s'adapter à ici. Là maintenant ça va, ça roule, mais elle a mis 5 ans, c'est énorme. Et je l'ai pas fait, je l'ai pas fait de saillir, je l'ai pas demandé de poulain, maintenant je vais peut-être leur demander un. Mais elle avait autre chose à faire. Il fallait qu'elle comprenne, qu'elle s'adapte, qu'elle intègre les cycles, et ça s'intègre pas comme ça. Il faut du temps. Et pour des brebis sur un pâturage un peu compliqué, il faut plus que du temps. Il faut une vie. Et une adaptation réciproque au berger, et du berger aux bêtes, et etc., etc. Sur le pâturage d'été, chaque année, à 48 heures près, je donnais les mêmes azerbades. On dit un oc, le même carré de net, la même surface à pâturer pour la journée, pour l'après-midi ou pour les deux heures du... Bon. Il y a une route qui descend du col. Et cette route, constituée dans mes circuits, dans ma façon d'utiliser la montagne, cette route constituait une barrière absolue jusqu'au 1er juillet. Le 25 juin, les bêtes s'en approchaient, elles faisaient demi-tour toutes seules. 28 juin... Elle s'en approchait, il fallait crier et elle faisait demi-tour. Le 30 juin, il fallait leur envoyer le chien. Bon. Mais le 2 juillet, il fallait pas essayer de les arrêter. Elles passaient. Elles avaient ça dans la tête. Et puis c'était comme ça. C'est l'histoire qu'on raconte tous, c'est l'histoire qu'on a tous vue, connue, à des degrés différents. Mais c'est l'histoire du type qui avait gardé une brebis qui avait mis bas peu de temps avant la montée en transhumance et qui avait tenu cette bête enfermée avec son agneau. Et l'agneau a un peu grossi, et la brebis était toujours dedans, et puis au bout de quelques temps, il s'est dit quand même, tu vas ouvrir la porte, elle ira un peu manger dans le jardin, ou par là autour, et la brebis, il l'a plus vue. Et 8 jours après, elle est arrivée sur le mont Lozère. Elle a traversé Florac, de nuit, en bloquant sa cloche, et personne ne l'a vue, et personne ne l'a entendue, mais elle y est arrivée quand même. Et moi, j'ai vu arriver plusieurs fois des bêtes au milieu du troupeau, alors qu'elles n'étaient pas prévues du tout, et elles avaient échappé à leur propriétaire, et elles sont montées toutes seules. C'est en ça que je dis qu'il y a une culture de troupeau. Quand on a affaire à des animaux qui n'ont jamais transhumé, ils ne cherchent pas à transhumer. Elles restent chez elles, quitte à y crever de faim. Mais si elles savent que ailleurs on peut faire autre chose, et quand on a déjà fait autre chose ailleurs à un moment donné, elles le font, et elles le savent, et elles le transmettent à leurs agnelles. Donc on a une transmission de l'information intergénérationnelle et une connaissance des lieux et des dates. Quand on commence à secouer des cloches de drail, le troupeau lève la tête et ils savent que le lendemain on s'en va. Elles le savent. Alors peut-être que le mot culture est un peu trop... Mais moi il me va.
Il y a une chose qui est toujours surprenante quand on voit la transhumance, ce qu'on pourrait appeler le peloton. Il y a toujours les meneuses du peloton. Quelles sont ces brebis qui sont devant, et pourquoi il y en a devant, pourquoi il y en a derrière? Est-ce que vous les identifiez en plus? Est-ce que vous les connaissez?
Bien sûr. Bien sûr, c'est à celle-là qu'on met une cloche, ou qu'au contraire on n'en met pas parce qu'on veut avoir la paix. Une question d'appréciation au moment. On rentre là dans des histoires de caractères différents des animaux. Qui sur un troupeau de moutons, ça peut paraître totalement incongru et il faut une réelle finesse d'observation et du temps pour se rendre compte quand on prend la peine de dépasser l'aspect grégaire. Après, à l'intérieur du groupe, on a des caractères différents. On a des sauvages, on a des familières, on a des peureuses, on a des téméraires, on a des qui explorent et on a des qui suivent. Et on a des bêtes qu'on voit jamais de l'été parce qu'elles sont toujours au milieu. On a des bêtes qu'on voit sans arrêt parce qu'elles sont toujours au bord. Je me souviens d'une bête, j'étais à Massevac encore, qui a jamais fait le tour du parc, elle a jamais su comment le parc était grand. Elle arrivait à la dernière et elle se couchait, pouf, à la porte. Et le matin, quand on partait, elle était là, elle se levait, elle regardait partir le troupeau, et quand elle était sûre qu'il n'y ait plus personne dans le parc, hop, elle suivait. Quand elle était là, en général, il manquait personne. Mais elle avait toujours pris ce temps de vivre là, alors que d'autres arrivaient, faisaient le tour du parc pour bien connaître les limites. On a des comportements individuels différents.
Peut-être une question historique, et puisque tu as vu, toi, au niveau de l'évolution des troupeaux, Col Salides, l'année où j'ai filmé, c'est-à-dire 2013-2014, il restait ton troupeau, le troupeau de Bruno Series, le troupeau de Massevac. Combien y en passait dans le temps? Et peut-être au 19e siècle, on parle de 100 000 bêtes. Quoi. C'était considérable, l'élevage de moutons. Qu'est-ce que tu sais de ça? Et qu'est-ce que tu as vu?
Que dire? Que l'élevage au vin, en particulier. Oui, l'élevage au vin est en constante diminution depuis la fin du 19e, 1860. Bon, pour tout un tas de raisons. Et que ce soit les sédentaires comme les transhumants. Les transhumants, que je connais mieux, ont vu leur effectif diminuer, le nombre de troupeaux diminuer. Le nombre de bêtes par troupeau n'a pas forcément diminué. Mais le nombre de troupeaux c'est considérablement restreint. Des tas de raisons. Les choses n'arrivent jamais comme ça pour une seule raison. Il y a toujours une conjonction de circonstances qui font que... Toujours. Il y a eu, sur les troupeaux des garrigues, de la plaine viticole, il y a eu l'apparition des engrais chimiques, l'apparition des désherbants, l'apparition des lois sociales en agriculture, etc., etc. Donc... Le mouton était plus vraiment indispensable, ni pour apporter la fumure, ni pour bouffer les adventices avant qu'elles graînent et qu'elles envahissent les vignes. On ajoute à ça des lois sociales sur l'emploi des bergers, qui bien souvent étaient le vieil oncle ou... quelqu'un qui était là, qui faisait le boulot et qu'on ne payait pas ou peu ou mal, sans charge sociale bien évidemment, sans cotisation retraite bien évidemment... Et le monde a fonctionné comme ça pendant longtemps. Et simultanément, il y a eu le développement de l'élevage bovin sur les zones de transhumance, grâce à la généralisation de la clôture. On n'avait plus besoin du gamin, ou de l'oncle, ou du neveu, ou du bonhomme qu'on déclarait pas. On tirait aisément de l'électrique ou du barbelé. Quant aux zones qui étaient pâturées, par ces grands transhumants, il y a eu, toujours au même moment, et là on est dans les années 60, 1960, un encouragement à la plantation de résineux. Il y avait moins de troupeaux en bas, les terres de transhumance étaient pour une part récupérées par les bovins locaux et d'autre part par la forêt. La page a été vite tournée. Moi je me souviens à Salides avoir vu passer je sais pas combien de troupeaux, je sais pas. Je me souviens, j'étais gamin, air de côte, 12 ou 15 septembre, il y avait 4 troupeaux différents qui descendaient. Il en était descendu 3 la veille et il en était passé 2 le lendemain. Dans Cabriac même, moi je me souviens avoir vu passer un troupeau qui venait sur le Méjean, le troupeau de Massevac, un troupeau qui allait à Cognierges. Je parle pas des troupeaux de Fons qui, eux, étaient là l'été, mais qui traversaient pas le village. C'est une diminution lente, mais régulière, depuis très très longtemps. Il semblerait que depuis une dizaine d'années, les effectifs se stabilisent. On n'a peut-être pas vraiment assez de recul encore, mais quand même. Il y a eu une spécialisation, une augmentation des troupeaux existants s'étant maintenus. Il y a la création de troupeaux. Il y a bien longtemps que j'avais pas vu se créer autant de troupeaux que dans les 5 ou 6 dernières années. Certains tiennent le coup, d'autres tiennent pas le coup. Il y a du brassage, il y a du renouveau, il se passe des choses. Quoi. La vigne en bio, ça c'est sûr que ça appelle le troupeau. C'est une évidence.
Ces jeunes éleveurs qui se sont installés en bas, dans le Gard Ferrandus par exemple, j'en connais un, et qui est dans les vignes, par contre l'été ils font quoi?
Transhument.
Transhume quand même.
Transhume. C'est des troupeaux qui se sont agrégés à des transhumants existants et qui viennent les renforcer ou qui peut-être même, s'il y en a trois de plus, vont permettre la création d'une nouvelle unité à condition de trouver de l'espace disponible, mais il peut s'en trouver, quoi. Autant j'étais très pessimiste il y a 15 ans, autant je suis optimiste. C'est pas Yukai Yukaida, c'est pas... mais quand même, il y a plus qu'un frémissement.
Est-ce que tu as vu en, disons, 40 ans, une évolution de l'élevage, ou est-ce que vous êtes resté finalement dans une tradition assez constante ?
C'est un peu compliqué. Il y a plein de paramètres qui ont influé sur les façons de faire. Entre l'évolution de la demande des consommateurs, des clients, des bouchers, sur le produit qu'ils veulent, il y a 40 ans, le marché de Nîmes était un marché aux ovins florissant. Il y avait tous les mercredis, je ne sais pas combien de centaines de bêtes qui s'échangeaient, et la marchandise. De base, celle autour de laquelle s'organisait le marché, c'était l'agneau de Nîmes. L'agneau de Nîmes, c'est un produit tout à fait particulier, c'est un agneau qui fait entre 20 et 25 kilos vif, qui est gras comme un petit cochon, et qui est abattu très jeune, et qui correspond à des habitudes alimentaires et gastronomiques typiquement méditerranéennes. Il n'y a plus un seul agneau sur le marché de Nîmes, le marché de Nîmes n'existe plus. Pour manger de l'agneau de ce type-là, il faut aller à Perpignan, où ils sont très légèrement plus légers, des agneaux qui font 9 kilos carcasse. C'est un agneau qu'on retrouve en Italie partout, et qu'on retrouve en Espagne. Sur Perpignan, il doit en rester quelques-uns. Sur Nîmes, ça a complètement disparu. L'abattoir de Nîmes est fermé, le marché de Nîmes est fermé, l'abattoir de Montpellier est fermé. Et quel boucher nîmois, si tant est qu'il en reste, sait aujourd'hui ce qu'a été le volume en tête et en francs de l'agneau de Nîmes. Donc l'évolution de la production et de la conduite des troupeaux et du nombre de mères dépend aussi de facteurs économiques et de l'évolution de ces facteurs économiques. À ça, il faut ajouter le poids des politiques publiques qui ont fait en sorte que ce qu'on appelle, c'est une locution qui m'agace, mais bon, ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Pourquoi y aurait-il pas de panier du ménager ? Le panier de la ménagère représente de moins en moins de valeur en pourcentage dans le budget familial. Il a bien fallu compenser cette stagnation du prix de vente des produits agricoles par des aides diverses et variées si on voulait que ce fameux panier n'augmente pas. Donc ces aides sont venues, au départ en tout cas, renforcer le nombre de brebis détenues par chaque éleveur. Il y avait une prime à la brebis, relativement conséquente, qui venait compenser la stagnation du prix de vente de l'agneau. Ce qui fait que les gens ont développé leur troupeau jusqu'à temps de détenir le maximum possible de brebis primables, sans pour autant agrandir les pâturages, sans pour autant agrandir les possibilités de stock fourrager, et sans pour autant agrandir les bâtiments. Alors, un tas de brebis confinées dans un petit bâtiment, on peut pas faire des agneaux gros. On peut pas faire de l'agneau gras. L'agneau de Nîmes, ça commençait à disparaître. L'agneau entre 16 et 20 kilos de carcasse, comme il se commercialise normalement de plus en plus partout, prend de la place, demande du temps, des investissements donc en bâtiments, en aliments. Alors que la prime à la brebis, c'est du direct, c'est du tout de suite. Et ça coûte pas plus cher. Donc, plus de brebis et des agneaux vendus de plus en plus petits. Et ça tombait bien, puisque avec un agnelage d'automne relativement précoce, les agneaux des Cévennes sortaient bien avant les agneaux de Roquefort et permettaient de remplir les bâtiments d'engraissement des engraisseurs aveyronnais avant qu'arrive le gros flot d'agneaux des troupeaux laitiers. Et quand on a un bâtiment d'engraissement, il faut qu'il soit plein le plus longtemps possible, le plus régulièrement possible, pour alimenter aussi des clients sur l'année le plus régulièrement, etc. Donc ça intéressait tout le monde, les uns de vendre, les autres d'acheter ces agneaux-là, nombreux que les éleveurs ne pouvaient pas, ou n'avaient pas envie, ou ne savaient pas, tout est possible, mener au bout. Donc là, il y a eu une évolution de la production, comme il y a eu une évolution sur la production de moutons. Historiquement, quand on avait des animaux destinés à produire d'abord et avant tout du fertilisant, de la concentration de matière organique, les moutons mal castrés, jouaient parfaitement leur rôle. En plus de ça, ils produisaient de la laine, qui est la deuxième fonction du mouton. Ils constituaient une épargne, une mise à l'abri d'un capital disponible à tout moment, puisque vendre un mouton, ça ne mettait absolument pas en cause l'outil de production, ça touchait pas le cheptel reproducteur. En un temps où le consommateur de viande était un consommateur de viande, quand il en achetait, il voulait en avoir pour son argent, il n'avait pas peur du gras, et des côtelettes qui tenaient toute l'assiette, avec un doigt de lard autour, ça faisait peur à personne. Alors qu'aujourd'hui, ce genre de choses est rigoureusement invendable à qui que ce soit. Parce que c'est trop gras, c'est trop gros, c'est du mouton, ça a du goût. Ça a du goût. Donc, modification du comportement du consommateur. Non prime, puisque c'est un mâle castré, il n'a droit à aucune prime de la part des gouvernements divers et des Europes variées. Le mouton n'a plus de raison d'être. D'autant plus que la laine vaut pratiquement plus rien. Donc là aussi, modification de l'allure générale du troupeau en raison du contexte socio-économique. Tout ça est très très lié. Essayer de comprendre pourquoi ça ouvre sur tout le reste, quoi. On a toujours un faisceau d'influences plus ou moins déterminantes, de paramètres plus ou moins importants, avec des coefficients difficiles à établir, et en plus, d'autant plus variable que chaque éleveur, chaque individu a sa façon propre d'apprécier les choses.
Quelque chose qui nous paraît assez mystique pour nous, parce que finalement on n'y a pas accès, ou à part quelques-uns, c'est la tonte, qui est une pratique utile, mais qui semble être aussi une pratique sociale.
Par où je vais commencer là? Parce que là, t'as des entrées à tous les niveaux. C'est comme ma maison en bas, comme ces maisons qui sont construites sur un travers assez important, où tu as de rez-de-chaussée à tous les étages. Tu vois ce que je veux dire? Si on commence à parler de laine, je sais pas où il faut aller, je sais pas d'où il faut partir, je sais pas où on va arriver. La laine, c'est Jason et la toison d'or, et les argonautes. Donc c'est la mutation de ce sous-poil du mouflon initial qui devient laine, qui devient fibre utilisable. La laine, c'est Rambouillet, c'est Daubenton, c'est les Mérinos. La laine, c'est l'Australie. La laine, c'est les capotes des soldats de l'armée rouge. C'est les délainages de Mazamet, c'est les troupeaux de 15 000 têtes de la Pampa argentine, c'est Christian Destouches, qui a été le dernier vraiment très grand expert lainier. Un homme qui, quand il trouvait au fond d'un curon, on appelle curon ces sacs de toile extrêmement solides, dans lesquels on range les toisons à mesure qu'elles sont tondues, et que l'on expédie ensuite chez les gens qui s'occupent de traiter la laine. C'est donc dans le curon que voyage la laine de tente, avec un système de fermeture particulier. Bref, c'est un objet très... c'est un sac tout à fait particulier destiné à ça. Et Christian Destouches, quand au fond d'un curon, il récupérait un brin de laine, il le regardait, il le tirait entre ses deux doigts, il le faisait sonner avec le majeur de la main droite. Il écoutait le bruit qu'il faisait, il le mettait dans la lumière, il le regardait par transparence, et puis il l'étirait sur sa manche de veste ou sur son pantalon, et il racontait une histoire après. Et il nous disait, ce brin de laine, il vient d'Australie, il vient de Nouvelle-Zélande, il vient d'Écosse. Ce brin de laine, il appartenait à une brebis qui, vous voyez là, cette petite marque, a mis bas à ce moment-là. C'était un type absolument fascinant, qui du premier coup d'œil, au micron près, disait la finesse de la fibre d'un brin de laine. Christian Destouches, type merveilleux, qui avait donc concentré consacrer sa vie au mouton d'abord et à la laine ensuite, mais concentrer dans sa mémoire à peu près tout ce qu'on pouvait savoir sur cette fibre-là. Donc la laine, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est des millénaires de sélection, de savoir-faire d'éleveur, mais derrière de savoir-faire de forgeron, de savoir-faire de tisserand, de savoir-faire de teinturier. C'est un tel monde, la laine, qu'il faut aller voir Dominique Cardon, qui en sait infiniment plus que moi, sur tout ce qui est filage, tissage, teinture. Alors moi, je vais juste essayer de parler un petit peu de la laine, de la tonte. Il était énorme, des touches, énorme. En plus, c'était une sacrée baraque. Mais ce que je te raconte sur les curons, le bourrin de laine au fond du curon, je l'ai vu, hein.
Ouais, je te crois. Tout le monde te croit. Oui, c'est beau. C'est beau. Comment ça se passe quand vous tondez? Finalement, c'est des choses qui semblent se passer entre vous. Il y a finalement très peu de gens de l'extérieur qui assistent à ça. Et on entend souvent dire, lui, il n'est pas berger, mais il sait tondre. Par exemple, c'est chez vous, ça semble être quelque chose d'exceptionnel de la part de quelqu'un d'extérieur qui sait tondre. Quelqu'un qui est bien intégré.
Je vais essayer un truc. 2 ans après, comme il avait les tondeurs de moutons chez lui, à Baal HaTzor, près d'Ephraïm, Absalom invita tous les fils du roi, etc. Et là, on est dans le livre de Samuel. C'est ce que je cherchais. Mais on l'a dans autre chose. Je veux pas faire preuve d'érudition, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai parlé de Jason tout à l'heure, que ces histoires de laine et de tondeurs, c'est vieux comme l'humanité, quoi. En tout cas, comme l'humanité telle qu'elle s'est constituée dans l'histoire, donc dans l'écrit. Et là, on est dans le livre de Samuel. Mais je trouve que cette référence-là, alors que je suis persuadé qu'il y en a au moins une, si pas deux autres, dans l'Ancien Testament. On en est à cette histoire de laine, cette histoire de tonte. La plupart des animaux donnent leur fourrure une fois qu'ils sont morts. Les moutons ont ceci de particulier qu'ils donnent leur toison chaque année. Il n'y a pas que on épile les lapins angora, on récupère la laine des chameaux, on récupère celle des autres camélidés, des vigognes, des alpagas. Mais l'animal emblématique de la laine, de la fourniture de fibres textiles, c'est le mouton. Et la laine et les tondeurs, et les propriétés de la laine, et le rôle des tondeurs, c'est une histoire qui est vieille comme le monde, ou en tout cas vieille comme l'histoire. C'est Jason et la mutation, la toison d'or. Mais pour récupérer la laine, et pour la tondre, il faut à la fois l'objet, l'instrument, l'outil, et le type qui sait s'en servir. Un faisant l'autre, l'autre faisant l'un, il me semble qu'il y a eu des... Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que les toutes premières forces à tondre devaient être en cuir, en bronze, je sais plus. En tout cas, dès qu'on a eu du fer, ça a été un outil fabriqué très très largement et qui a donné lieu à l'invention du ressort. Les forces à tondre sont faites d'une seule pièce, avec les deux lames qui se chevauchent, mais qui sont reliés par un ressort plus ou moins plat. Quand on le ferme, il coupe, et quand on le relâche, il s'ouvre, et c'est quand même un objet assez fascinant, utilisé encore aujourd'hui par des tas de gens qui ont deux brebis à tondre, qui n'ont pas l'électricité, qui ont appris à utiliser cet objet-là. J'ai vu des gens tondre en force, avec efficacité, vite, bien, propre, sans comparaison avec une tondeuse électrique telle qu'on les connaît aujourd'hui. Mais quand même, cette histoire de force, dans l'histoire de la métallurgie et dans l'histoire de l'élevage, c'est pas rien. Ici, on savait dans Languedoc, pas de force, mais des ciseaux. Des ciseaux qui sont d'une fabrication plus récente, et qui ont trois morceaux de métal, deux lames biseautées en ciseaux et un axe. Ça ressemble à des gros ciseaux de couturière. Pour arriver à les faire couper, à les faire jointer, il faut un tour de main tout à fait particulier. Et là aussi, un réel apprentissage. Il y a eu longtemps, dans certains villages, j'allais dire des écoles. C'était pas des écoles, c'était des cols tout court. Col au sens occitan du terme, groupe, bande, comme on dit une colle de vendangeurs ou une colle de châtaigneurs. Donc un groupe de gens disposés à mettre leur force de travail au service d'autres qui en avaient besoin de façon tout à fait momentanée et ponctuelle. Donc il y a eu des villages d'où partaient des cols de tondeurs. Je pense en particulier à Notre-Dame de la Rouillère, où il y avait des tondeurs, pas dans chaque maison, mais pas loin, qui partaient pendant un mois et demi, tondre les brebis des garrigues et de la plaine, avec leurs grands ciseaux. Les chefs de col, les entrepreneurs de tonte, étaient souvent, l'hiver, des tueurs de cochons. C'est des gens qui savaient faire couper le fer, qui connaissaient l'anatomie des animaux, et qui mettaient au service des autres, moyennant une juste rétribution, ces connaissances-là. Et encore aujourd'hui, le dernier tondeur de Notre-Dame de la Rouillère est aussi tueur de cochons. Il fait ça très bien. Mais ça m'a toujours un peu interpellé, cette histoire-là, de voir que c'était les mêmes. Que faire couper des ciseaux ou faire couper des couteaux, c'est pas pareil. Le tranchant d'un couteau et les tranchants d'une paire de ciseaux, c'est deux choses très différentes. Il n'empêche que c'est du métal et c'est dans les mains d'un type qui intervient sur des animaux qui ne sont pas à lui. Ça, sur un plan d'analyse des relations sociales, c'est pas anodin. Sur le Cosmejan, il n'y a pas de tondeur professionnel à ma connaissance. Mais par contre, il y a des groupes de gens qui vont tondre chacun chez les autres, ou les autres chez chacun, où existe, et c'est maintenu, et existe donc encore, une vraie convivialité autour de ça. Les éleveurs tondent eux-mêmes, et ça reste quand même un moment de fête. Chez nous, en Cévennes, c'était un peu ça aussi, parce que pour tondre au ciseau, il fallait attraper les bêtes, les renverser, les attacher, enlever la laine, balayer. Bref, c'est un vrai chantier. C'est un vrai chantier, et ce chantier nécessitait du personnel, et c'était l'occasion de voir du monde, et c'était l'occasion de tordre le cou au poulet ou au coq de l'année d'avant. Là aussi, des relations sociales très très fortes, quoi. Et puis il y a cette histoire de tonte au ciseau, de tonte coutelade, avec cette laine qui est laissée sur certaines parties du corps de l'animal, ses croissants, ses grailles, ses vagues, cette sculpture sur mouton, avec cette rose, ce pompon, sur la croupe des plus belles bêtes. Ça reste pour moi une source d'interrogation. Pourquoi, alors que vendre la laine, c'est quand même économiquement important, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à laisser autant de laine sur un animal? J'avoue que ça me plonge dans une grande perplexité. Plus au nord, en Lozère, se laisser un simple petit rail juste en arrière des épaules de l'animal, c'est un truc qui faisait 1,5 cm de haut sur 1 cm de large. Pourquoi? J'en sais rien. Il y a eu de par le monde des tas de façons différentes de tondre, entre la tonte que de la partie arrière de l'animal, que du ventre et de certaines zones du dos aussi. Il y a eu des techniques de tonte dites en lion pour les agneaux des mérinos transhumants dans les Alpes, où ils ressemblaient en gros à des caniches. Il y a eu des Pyrénéens qui tondaient uniquement à la redescente de montagne au mois de septembre. Il y a des gens qui tondent en hiver avant de remettre les bêtes dehors. Des laitiers qui attendent d'avoir fini la campagne de traite. Des gens qui pendant très très longtemps, je pense que la pratique est abandonnée, mais pratiquaient ce qui s'appelle le lavage à dos. Autrement dit, ils foutaient les moutons vivants et en laine dans la rivière et ils les lavaient bien et ils les tondaient ensuite. Tout est possible. Tout a été possible. On a à peu près tout essayé. Il y en a qui les attachaient et qui les tondaient sur une table pour pas se casser le dos. Maintenant qu'on a des tondeuses électriques, on a mis au point des techniques pour les tondre sans les attacher du tout. une tactique extrêmement efficace, qui permettent de récolter la toison d'un seul tenant. Mais alors là aussi, il y a deux écoles. Il y a deux écoles, il y a les Français et les Anglais, comme d'hab. Avec les uns qui tondent pour récolter une toison, et les autres qui tondent une bête. Et le résultat est complètement différent. Entre le fait qu'on veuille une toison la plus homogène, la plus régulière dans sa coupe, avec des fibres les plus longues possibles, et sans fausse coupe, sans ces petits morceaux de brin de laine, de rien du tout, dû au passage deux fois au même endroit de la tondeuse. Là, la toison est nickel, mais quand on lâche la bête, il lui reste des petites crêtes de laine, des plis qui ont été moins rasés que d'autres. Mais là, on a récolté une toison. De l'autre côté, il y a des gens qui veulent des bêtes tondues, passées au papier de verre, avec rien qui dépasse, et que la bête, quand on la lâche, on voit même pas les coups de tondeuse, mais qu'elle soit absolument régulière. Et là, ils ont tondu un mouton. Ils n'ont pas récolté une toison. Parce que la toison, là, elle n'est pas très très jolie. Elle est un peu mâchouillée. Je ne dis pas que l'un a raison et que l'autre a tort. Hein. Ils n'ont pas la même façon de voir les choses, c'est tout. Les deux me paraissent tout autant respectables. Et je l'entends tondu des moutons. Je pense qu'aujourd'hui, je récolterai les toisons. Mais ça, c'est mon évolution personnelle. C'est pas autre chose. Il fut un temps où les tondeurs, en métis, en mérinos d'Arles, étaient rétribués avec la laine de la queue. Quand ils avaient fini de tondre la bête, ils tondaient la queue, et cette laine-là, c'était leur paye. Et puis après, on a eu une baisse de la valeur de la laine, mais quand même, on avait quand même des toisons dont la vente couvrait largement les frais de tonte et les frais de transhumance de l'animal. Quand c'était pas en plus, les traitements antiparasitaires. Et puis la laine a continué à perdre de la valeur jusqu'au moment où les frais de tonte, donc le salaire du tondeur, ont dépassé la valeur de la toison. Et où ce produit magnifique, admirable, aux qualités extraordinaires, est devenu une charge pour l'éleveur. 8000 ans de sélection pour en arriver à une fibre dont la simple récolte devient un coût. On est dans une inversion totale de l'ordre des choses. On marche sur la tête, c'est le monde à l'envers. Alors qu'est-ce qu'il faut incriminer? Les fibres modernes, les fibres artificielles, les polaires fabriqués avec des vieilles bouteilles de plastique, c'est une des raisons. La disparition de l'Union soviétique et la reconversion des fournisseurs de capotes de l'armée rouge qui étaient en laine, qui maintenant sont rendus seul c'est quoi. Le stockage ou le non-stockage de matières premières par le Japon en fonction des disponibilités en matières premières, en laine donc, la seule matière agricole qui soit aussi une matière industrielle, truc très compliqué. Donc les Japonais qui stockent pas en fonction des disponibilités ou en fonction du cours du yen, les laines néo-zélandaises ou australienne, que fait l'Argentine avec sa laine de la Pampa? On en fait des isolants pour des tuyaux de chauffage, on en fait des isolants pour des toits, on en fait... Qu'est-ce qu'on fait de cette fibre qui est indéfiniment renouvelable tant que l'herbe poussera et tant qu'il y aura du soleil, quoi. Alors il y a maintenant des initiatives de petits groupes d'éleveurs qui là comme ailleurs, ne se contente plus d'essayer de commercialiser de la matière première, mais qui essaye d'aller jusqu'à la mise en marché du produit fini, et qui se mettent à fabriquer ou faire fabriquer des couettes, des chaussettes, des bonnets, des gants. Et ça marche. Et il y a des éleveurs, je pense aux brigasques, qui ont des laines extrêmement grossières, qui en font faire des tapis et qui vendent leurs tapis 100 fois le prix qu'ils auraient vendu la laine. Les éleveurs de Brebis-Rayolles se sont mis à ça maintenant aussi et ils font faire et ils vendent des couettes qui sont des petites merveilles. Mais ça demande un investissement en temps, en communication, en commercialisation. Ça devient tout de suite très compliqué.
Et toi, quand tu tondais tout seul ou tu tondais en groupe?
Alors quand j'étais tondeur, pour les gens, on tondait à deux ou à trois. Parfois tout seul, mais j'aimais pas ça. Tout seul, c'est décourageant. Pour être vraiment efficace, il faut tondre. Et je tondais pas vraiment assez pour avoir le rythme, quoi. Je l'ai eu, mais pas longtemps. Et puis après, trouver tout seul, ça. Bon, tant que tu tondes ta brebis, ça va. Quand tu lèves la tête et que tu vois ce qu'il te reste à faire, tu prends peur, quoi. Quand tu es deux, c'est pas pareil. Tu as une émulation, un rythme qui se crée. C'est différent. C'est tout à fait différent. J'ai longtemps tondu tout seul mes propres bêtes. Jusqu'au jour où j'en ai eu ras-le-bol et où j'ai fait venir un tondeur professionnel. Pour ce qui est de la tonte au ciseau, ben c'est sûr que ces jours-là, il y avait du monde dans la maison. Il débarquait à deux ou trois tondeurs. Il y avait toujours un copain ou deux qui venait aider à attraper, qui venait aider à enlever la laine, qui tenait la bête pendant que le tondeur fignolait la rose, parce qu'il faut que la bête soit debout, il faut qu'elle soit tenue et pas tenue de travers, sinon la rose est de travers, ce qui donnait lieu à des empoignades amicales, mais parfois des niveaux sonores un peu importants. Mais sur ces chantiers-là, j'étais assez malheureux parce que... Enfin, c'est malheureux. J'avais un rôle très particulier qui consistait, puisque j'avais une tondeuse électrique et que je savais m'en servir, qui consistait à ouvrir les coups et tondre les ventres, faire à la tondeuse à ras ce qui doit être mis à ras sur les bêtes tondues au ciseau pour avancer le travail des copains qui, eux, savaient servir les ciseaux. Moi, j'ai jamais su faire couper ces ciseaux-là. J'ai des mains trop petites ou mal foutues ou j'ai jamais su appuyer à l'endroit qu'il fallait. J'ai essayé 100 fois et comme j'avais la tondeuse, des coups, j'en ai ouvert ma part. Et des ventres et des épaules et des tout ça, mais j'ai jamais tordu au ciseau. Donc sur mes bêtes, je faisais ça, sur les bêtes des copains aussi, et j'ai continué à le faire encore cette année. Chez Alfred, j'ai ouvert des coups et ouvert des épaules pour que les tondeurs au ciseau aient un travail plus facile et plus rapide, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours des rassemblements de tas de gens qui débarquent. Ah, tu tords aujourd'hui, mais c'est bien, on vient. Et ça se termine par un canard, un poulet, un lapin, enfin des choses agréables à partager.
L'intérêt de la sortir d'une pièce, quand même, c'est quoi ?
La toison. Mais la toison, c'est encore que à l'intérieur même de la même toison. Donc sur la même bête, il y a des finesses différentes. La laine est plus fine sur les gigots que sur les épaules. Tu as quand même une certaine homogénéité de la toison. Donc quand tu la sors entière, tu enlèves les écarts, les trucs un peu merdiques, un peu dégueulasses autour, et puis tu la replies de telle façon que ensuite, quand elle sera utilisée, à l'ouverture, le filateur, le laveur, le je sais pas trop quoi, puisse l'utiliser du mieux possible, quoi. Et c'est comme ça que ça se range le mieux, ça se transporte le mieux. Moi, je me souviens... Tout début où j'ai tondu en Provence, les métis, le tondeur faisait ce qu'on appelle le lao, la boule de laine pliée d'une certaine façon, et ta toison, c'était un gros ballon, quoi. Et elles étaient rangées le long du mur, en pile, et l'acheteur venait et regardait la pile, puis regardait trois toisons au milieu et proposait un prix. C'était un temps où la laine était réellement valorisée, quoi.
C'était encore un peu d'énergie. Juste un dernier sujet. Vous avez été l'objet de curiosité de la part d'ethnologues. Comment ça s'est passé, ça ? Pourquoi vous ? Quelle était votre particularité ? Comment ça s'est fait ? Vous êtes devenus des célébrités. Vous êtes dans un nombre de livres incroyables. Lorsque j'en ai fait la transhumance avec Francis, c'était en 2013, il y avait la télé japonaise, la télé chinoise qui était là pour les filmer au pont Moutonnier.
Faut partir d'où, là aussi ? De nos fameux moutons, nos fameuses brebis, lesquelles sont, comment dire ? Pourquoi y a-t-il des moutons en Cévennes ou en Languedoc, dans ces zones finalement assez pauvres, ou en tout cas dans ces pays où les moutons sont cantonnés, dans les zones les plus difficiles, où, comme je l'ai déjà dit, leur rôle est de concentrer la fertilisation à la matière organique. Mais parce qu'ils sont les seuls à pouvoir le faire. ils sont les seuls à pouvoir le faire de façon efficace. Mais comme ils étaient les seuls à pouvoir utiliser comme il faut les chaumes, les friches, les bords de bois et les tas de paille d'Île-de-France. Là aussi, avant qu'il y ait des gros tracteurs et des pulvérisateurs de poisons phytosanitaires, il y avait des troupeaux qui utilisaient ces plantes adventices des céréales, qui utilisaient les chaumes et qui restituaient aux champs de blé de la matière organique, transformée, donc réutilisable directement par la plante et par le sol. Mais là aussi, le mouton, il était au bord. Il était dans les champs quand il n'y avait plus rien ou pas grand-chose. Il était dans les zones où on ne pouvait pas faire de champs. Et c'était l'animal des marges. Et ça reste l'animal des marges. Dès qu'on a la possibilité d'élever un animal plus performant, une vache, un cochon, on met une vache ou un cochon et on arrête les moutons. Quand on essaye de s'installer en agriculture aujourd'hui, c'est pas rare de commencer par le mouton, mais dès qu'on a un petit peu avancé, vite vite, on passe à des animaux à la fois plus performants et moins contraignants. Clôturer des moutons, c'est difficile, beaucoup plus que de clôturer des vaches. Faire transformer des céréales à des moutons, c'est, sur un plan agronomique et énergétique, c'est une erreur, une faute. Alors que le faire transformer un poulet ou un cochon, c'est quelque chose d'économiquement extrêmement intéressant, extrêmement valable. Il faut savoir que l'indice de consommation, l'indice de transformation des céréales en viande, s'il est entre 1,5 et 2 pour le poulet, autrement dit, on file à un poulet 2 kilos d'aliments et on va avoir 1 kilo de poulet, peut-être même un peu plus. Pour avoir 1 kilo de porc, ben avec 2,5 kilos ou 3, on aura 1 kilo de porc. Il faut 7 kilos d'orge pour faire 1 kilo d'agneau. Hein. On n'est pas dans le même ordre de grandeur. Par contre, le cochon ou le poulet, ils n'utiliseront pas les broussailles et les buissons. Hein. Ce que le mouton utilisera. Donc tout ça pour dire que le mouton, pour moi, est l'animal des marges. De là à dire que les gens qui s'en occupent sont des marginaux, il y a un pas que je franchis volontiers. Cela étant dit, ces marginaux, avec leurs animaux particuliers dans des zones un peu difficiles, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, que ce soit les transhumants berbères, les arabes nomades, et c'est pas la même chose, les Mongols et les Roumains et nous-mêmes avons cet usage du monde tout à fait particulier qui crée l'interrogation, l'intérêt, le besoin d'expliciter, de montrer, de comprendre de la part de nos congénères. Et c'est vrai que avoir été l'objet d'études diverses est parfois un peu pesant. Mais c'est vrai que de voir quelles sont les interrogations, quelles sont les questions qu'on nous pose, ça peut être assez amusant aussi.
Oh.